When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ce qui d'ailleurs était du jamais vu dans le tennis. C'est un de nos agents qui avait dit qu'il avait signé un rappeur dans un kebab. Djokovic, j'ai entendu pas mal d'anecdotes sur ses deals. L'utilisateur le plus important de la plateforme a déjà investi 500 000 euros.
Alors bienvenue pour un nouvel épisode d'Histoire de marque. On reçoit Kevin Crouvillier, cofondateur de Royalties, qui est une bourse aux talents et notamment aux joueurs de tennis, dont le divin chauve Adrian Manarino, Daniil Medvedev, Corentin Moutet, Ruud, Kyrgios, Per et autres, Caro Garcia, qui ont rejoint l'aventure. Vous offrez l'opportunité d'investir sur des sportifs comme en bourse, dans le tennis, mais aussi le foot, le rugby, les sports auto et même le divertissement. Est-ce que tu peux commencer par nous dire déjà qui tu es et comment vous avez fait pour hacker le tennis, qui est un sport quand même assez méfiant et conservateur, en tapant très fort avec les têtes d'affiche que j'ai citées juste avant? Comment vous avez réalisé ce coup de génie?
Alors déjà, moi je m'appelle, donc tu l'as dit, Kevin Crouvillier, je suis cofondateur de Royalties avec mon associé Christophe. On a lancé cette entreprise il y a maintenant plus de 2 ans et demi, donc c'est à la fois long et à la fois récent, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Et moi, pour parler un petit peu de mon passé, j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai arrêté l'école très très jeune pour me lancer dans le jeu vidéo. On avait monté un site web de jeux vidéo avec des amis à l'âge de 15 ans qui avait bien fonctionné. Donc c'était un peu le Far West, le début d'Internet. Et ensuite, j'ai évolué dans le jeu vidéo, dans les médias. J'ai bossé pour des groupes médias également. Et ensuite, j'ai relancé différentes startups. Et c'est là où j'ai rencontré mon associé Christophe. Donc pour résumer, voilà, parcours entrepreneur, jeux vidéo, startup, tech. Et puis avant d'arriver du coup sur ce magnifique projet qui est devenu Royalties.
Top. Et donc, deuxième partie de question, là, tu nous as teasé.
Ouais, deuxième partie de question.
Faut y aller.
Ouais, c'est vrai qu'elle était coupée en deux. Voilà, deuxième partie de question sur le tennis. Écoute, t'as raison, c'est que le tennis, en fait, ça a été compliqué de rentrer dans le tennis. Pourquoi ? Parce que déjà, on a commencé du coup par d'autres sports. On avait commencé par le football, par le rugby, par le fight aussi. Et le tennis, effectivement, pourquoi c'est compliqué ? Tu l'as dit, c'est que déjà, je pense que les mentalités dans le tennis, effectivement, sont un petit peu différente que dans d'autres sports. C'est beaucoup plus fermé, notamment sur la partie digitale. Bon, je pense que ça commence de plus en plus à s'ouvrir, hein, mais ça reste fermé. C'est aussi des talents qui sont beaucoup moins accessibles, qui sont très entourés, qui sont avec des grosses agences, notamment IMG, qui sont des mastodontes. Donc, pour rentrer dans une agence comme IMG, se faire connaître, se faire référencer et aussi avoir la confiance mutuelle, les uns et les autres, ça prend beaucoup de temps. Donc, ça demande d'avoir d'être entouré des bonnes personnes qui vont aller parler avec ces agences et avec les joueurs. Et surtout, je dirais, ça nécessite que les joueurs soient eux-mêmes convaincus par Royalties et par ce qu'on fait. Et dans le tennis, nous, ce qu'on a beaucoup apprécié également, et ce qui est un peu différent des autres sports, c'est que pour le coup, les joueurs de tennis se sont tous beaucoup renseignés sur Royalties avant de signer. Certains ont même ouvert des comptes Royalties avant de signer. Donc il y avait vraiment en fait cet intérêt pour la plateforme afin d'être associé à quelque chose aussi qui les séduisait. Voilà. Et ça, c'est un point qui est important pour nous. Et pour te dire, même pour reboucler, c'est qu'on a même des joueurs de tennis qui sont rentrés au capital suite à ça. Donc Karen Khachanov, par exemple, qui est un gros fan de Royalties, qui a signé avec nous, qu'on a rencontré plusieurs fois et qui a dit « moi, je veux absolument rentrer au capital de cette boîte », qui a mis un beau ticket, objectivement, pour rentrer au capital, et sans doute d'autres qui vont suivre. Donc tu vois, on a vraiment réussi à boucler la boucle.
Il est là, le Karen. Incroyable. Il est très fort, le mec. Brillant. Je l'ai croisé, là, je l'ai rencontré à Marseille. Je faisais des interviews pour un partenaire de l'ATP et Et je lui dis, Karen, on peut faire 5-10 minutes. Première réponse de Karen, How much you give me? Le mec perd pas le nord. Il me semble.
Sur la boîte business.
Il est là, il est là. Après, c'est un joueur qui est mûr, qui a 30 ans passés. Ça sent le mec brillant. Ça m'étonne pas qu'il vous ait
Très, très, très intelligent. Non, 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 très, très intelligent. Vraiment, on a beaucoup d'échanges, de discussions, et c'est quelqu'un qui est déjà actionnaire sur d'autres startups, etc. Donc, oui, ça fait partie vraiment du haut du
Fort.
panier.
Il me semble avoir vu passer beaucoup de stories à l'époque avec Corentin Moutet sur Instagram. Vous inondiez un peu la target joueur de tennis, ou je sais pas trop comment vous faisiez votre ciblage, mais moi j'ai vu passer un nom. Est-ce que c'est Corentin du coup qui vous a donné ce point de bascule dans le tennis? Ou si c'est pas ça, ça a été quoi l'élément pour percer
Déclencheur.
l'objet dont tu parlais, déclencheur, tout ça, et puis faire votre sillon, quoi. Aujourd'hui, juste pour terminer, vous avez 31 joueurs et joueuses, je crois, à avoir recensé sur le site. Donc, il a bien
Ouais, de
fallu à un
tennis,
moment donné partir avec sa pelle et sa pioche, comme vous avez fait.
ouais. Et tu sais, c'est comme d'habitude, hein. Au début, tu pars toujours avec ta pelle et ta pioche, quoi qu'il en soit, quoi qu'on raconte. Tu te prends toujours des portes, ça a été dur. Je me souviens que tout au début, hein, quand on essayait de démarcher un peu des joueurs français de tennis, dont je ne citerai pas le nom, parce qu'en plus ça n'a pas d'intérêt, on se prenait des portes. Tout au début de Royalties, on nous disait, ah ben non, c'est pas possible, parce qu'en plus on en parlait mal, on n'était pas du tout mature, enfin c'est logique, hein. Mais après, Corentin Moutet, on a réussi effectivement à le faire signer pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il revenait de blessure, donc c'était une bonne opportunité. La deuxième, c'est que dans le package, on le sponsorisait également, donc ça lui faisait un billet en plus. Et la troisième raison, toujours pareil, c'est qu'on avait des connaissances en commun. Et donc le deal a pu se faire, parce que les deals se font aussi beaucoup par la confiance et par le réseau. C'est comme ça qu'on a fait ce premier deal, et en plus, on a eu quand même beaucoup de chance, ça arrive parfois, heureusement, c'est que on l'introduit le jour où il joue contre Wawrinka à Roland-Garros. Il bat Wawrinka et il joue contre Nadal le deuxième match. Donc, full exposition sur Royalties, sur le logo,
C'est
pour nos
beau.
utilisateurs, ça fait une belle histoire. Parfois, voilà, il faut un peu de chance. Et c'est vrai que Corentin était le point de départ, mais finalement, en fait, pour signer de très très gros joueurs, il a fallu d'abord en avoir d'autres. Après, il y a eu Karen Khachanov, Caroline Garcia. Donc, c'est vrai que après, il y a eu les Français également, Caroline Garcia, qui est quand même très connue dans le milieu. Et ensuite, vraiment le gros élément déclencheur, mais qui nous a pris énormément de temps à signer, c'est Daniil Medvedev, parce que c'est une star internationale, parce qu'il est chez IMG, parce qu'il est très regardant sur ses partenariats, parce que ça a eu vraiment un gros écho international, qu'on a fait un très gros score à son introduction. On a généré plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires à l'introduction de Daniil Medvedev, ce qui était notre record en quelques heures. Donc tout ça, en fait, voilà, ça a eu vraiment un bon écho. Mais Daniil Medvedev, effectivement, pour te dire un peu l'envers du décor, ça a été 4 mois de discussion et de d'aller-retour. On a même dû demander l'autorisation à la Tennis Commission, Equity, au Grand Slam Commission, parce qu'il y a des commissions dans le tennis, pour que Daniil puisse faire royalties. Parce que, comme tu le sais, c'est que les paris sportifs sont interdits que pour les joueurs en.
C'est là où je voulais rebondir, c'est que tout à l'heure, tu as dit que certains joueurs avaient même ouvert des comptes chez vous. Je voulais savoir à quel point vous étiez différent du coup de ce système de. Enfin, vous rentrez pas dans les mêmes radars. Et juste pour faire écho à Daniil que vous avez signé, que tu nous expliques aussi avec qui vous travaillez en parallèle, je crois que c'est les meilleurs avocats de la place, il n'y a pas de secret pour arriver là, faut négocier avec les meilleurs, quoi.
Ouais, non, clairement. Bah, déjà, en fait, sur la partie, le volet régulation, non, on n'est pas du pari sportif ou du gambling. On a eu des échanges avec ces régulations-là, d'ailleurs, qui nous l'ont confirmé. Qu'on n'est pas dans cette case-là. Et par ailleurs, la commission du tennis avec laquelle on a échangé, on leur a aussi expliqué notre produit, et ont aussi statué, ont donné la green light pour que les joueurs travaillent avec nous. Donc ça, c'est top, et c'était quand même un point majeur, parce que, encore une fois, les joueurs de tennis, ils font pas voilà, c'est des gens qui sont très rigoureux, et leur entourage, et ils font pas n'importe quoi. Donc une fois qu'on a déjà obtenu ça, mais ça prend du temps, ça prend des allers-retours, effectivement, il y a des discussions avec les avocats. Nos avocats, c'est les avocats de tous ceux qui ont fait nos contrats, c'est Baker et McKenzie, c'est l'un des plus gros cabinets d'avocats au monde. Mais voilà, on a discuté beaucoup avec eux et ça a pris beaucoup de temps pour convaincre le joueur, convaincre IMG, son agent qui est l'un des plus gros agents de la planète tennis. Et ça a été d'autant plus compliqué que juste avant, il y a eu des scandales en fait en crypto où il y a des talents qui se sont fait attaquer aux États-Unis. Notamment pour le scandale FTX en fait, et IMG avait pas mal de talents dans le lot. Donc nous, on arrive juste après, quelques mois après, avec un produit, même si c'est pas de la crypto et que c'est pas similaire, malgré tout, ça reste un produit qui est nouveau. Voilà, ils étaient très très regardants et méfiants de base. Donc on a dû vraiment montrer patte blanche et beaucoup discuter avec les agents et le joueur et vraiment ouvrir même complètement notre système pour leur expliquer de A à Z comment ça fonctionnait. Voilà. Et là, après, ils ont dit « Ok, bon, bah, on y va. »
Explique-nous votre produit, du coup, le ROI, comment il marche, combien il coûte, sur quoi il est indexé, en quoi il est différent de la crypto, finalement.
Le ROI, en fait, c'est concrètement, pour parler juridiquement, c'est un droit de contrat qui permet d'accéder à un rendement mensuel. Ça veut dire qu'en achetant un ROI, eh ben, t'as un rendement basé sur la performance économique du talent. Donc, en fait, ça peut s'apparenter à une action sans droit de propriété, si je dois faire un parallèle, parce que le système est quasiment identique. En fait, t'es sur la plateforme, t'achètes un ROI, le prix évolue selon l'offre et la demande, donc il monte, il baisse, et tu reçois un rendement tous les mois selon si le talent, en fait, économiquement, il évolue ou pas. Donc, vraiment, il y a des similitudes clair avec la bourse, puisque c'est ce qu'on veut devenir, c'est une véritable bourse des talents. Et le concept, c'est d'investir sur des talents plutôt que d'investir sur des entreprises. Mais les mécaniques, finalement, sont très, très similaires en fait, à de la bourse. Et c'est pas de la crypto parce qu'on n'est pas en blockchain, que tout est centralisé, fonctionne avec un partenaire de paiement, donc tu payes en euros avec ta carte de crédit.
Et alors, la valeur marchande du joueur varie en fonction de quoi? Parce que j'ai vu passer le cours de Nick Kyrgios qui a augmenté pendant l'Open d'Australie, alors que ce bon vieux Nick ne joue plus depuis un an. Sur quoi tout ça, c'est pas indexé uniquement sur les résultats sportifs, du coup?
Non, en fait, tu as deux choses. Le cours, en fait, c'est uniquement l'offre et la demande entre les utilisateurs. Donc, d'une part, tu as une partie spéculative, clairement. Parfois, tu as des talents qui montent sans vraiment fondement. Parfois tu as d'autres talents qui montent parce qu'il y a quand même une news qui est associée. Nick Kyrgios, pendant l'Open d'Australie, il me semble qu'il était quand même très présent notamment en médias, sur les réseaux etc.
Il a commenté.
Donc je pense il a commenté, donc ça lui donne de l'attractivité, donc forcément les users le voient, donc investissent sur lui. Son rendement à Nick Kyrgios c'est toujours très bon parce que c'est quelqu'un qui même s'il joue pas au tennis, il continue de faire du business, il continue d'être présent, continue d'avoir des activités, les utilisateurs l'aiment bien. Donc effectivement, tu as la partie, on va dire, le prix, il évolue selon les news, mais parfois selon juste l'effet aussi financier, macro, tu vois. Parfois, je te donne un exemple, mais quand c'est le mois où les utilisateurs doivent payer leurs impôts, par exemple, bah, tu vois qu'il y a potentiellement moins de cash sur la plateforme, donc potentiellement les prix baissent. Enfin, tu vois, tu as tous les effets macro qu'on peut aussi avoir.
D'accord.
Sur une bourse un peu plus classique, voilà.
Du coup, c'est quoi? C'est un algo qui calcule tout ça chez vous? Et si oui ou non, en fonction de quoi il le calcule? C'est quoi les paramètres vraiment qui rentrent en jeu?
En fait, le prix courant, c'est simple, c'est vraiment offre et demande. Donc, plus il y a d'achat, plus ça monte, plus il y a de vente, plus ça descend. Mais le rendement, effectivement, c'est un algorithme qui calcule le rendement. Et l'algorithme, en fait, il prend des données comme le salaire ou les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, il prend le nombre de publicités, le taux d'engagement, et en fait, tous ces paramètres, il faut qu'on est capable d'établir une valorisation sur 10 ans, et tous les mois, en fait, par rapport à cette valorisation-là, de faire évoluer en fait le rendement, voilà, d'un talent. Et le rendement, il est entre 2 et 50% par an maximum, par an.
T'as dit sur 10 ans, ça veut dire qu'à chaque fois que vous signez un athlète, c'est des contrats de 10 ans?
Ouais, c'est des contrats de 10 ans, ce qui d'ailleurs était du jamais vu dans le tennis, et ça c'est un truc qu'on a dû faire accepter. Alors on a la chance encore une fois d'être bien entouré, d'avoir des agents avec lesquels on travaille qui connaissent déjà ce monde-là, parce que si on y était allé par nous-mêmes, on n'y serait pas arrivé. Et en fait, clairement, quand tu arrives devant un joueur de tennis, que tu lui dis voilà, bah, le contrat c'est un contrat de 10 ans et en plus de ça d'exclusivité pendant 10 ans. Au début, les mecs te font des yeux en te disant mais c'est du jamais vu. Donc bah ouais, 10 ans, ok. Mais est-ce que t'es prêt à sortir est-ce que t'es prêt à sortir les dizaines de millions là? Parce que c'est pas voilà, c'est contrat de 10 ans, c'est du jamais vu. Et on doit vraiment leur expliquer et aussi faire preuve de pédagogie pour leur expliquer pourquoi un ROI peut pas tenir uniquement un an, parce qu'un utilisateur va pas acheter un ROI ou une action un an, ça a pas de sens. Donc, on a dû faire accepter aussi ce concept-là. Ouais.
Et alors, t'es allé beaucoup trop loin, il faut que tu nous donnes des chiffres. Tu nous as dit que Danil avait généré 600 000 le premier jour. Est-ce que tu peux nous donner des fourchettes sans rentrer trop dans la confidentialité? Mais comment est-ce que tu embarques une star comme Danil? Qu'est-ce que tu lui proposes comme contrat? Est-ce qu'on peut avoir des montants, ou Corentin, ou Kyrgios, ou Benoît Paire, ou même les filles, pour faire un distinguo entre les deux? Ça marche
Ouais.
comment?
En fait, tu as des contrats. Nous, c'est un contrat de droit à l'image, clairement. Donc, en fait, le talent, il nous cède son image dans un périmètre quand même qui est défini, et on peut l'exploiter au travers de l'écosystème royalties pendant 10 ans. Et aussi, dans le contrat, est inclus des opérations de communication, notamment sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous voyez beaucoup passer. Royalties sur les réseaux sociaux. Et donc ça fait partie du package contrat. Et ensuite, là, pour le coup, comme un contrat je dirais d'un équipementier ou autre, le prix varie clairement selon le talent. C'est évidemment pas du tout le même prix pour un jeune joueur qui est pas encore très connu que pour Daniil Medvedev, Nick Kyrgios, Casper Ruud, qui sont là, effectivement, les plus hauts, parce que c'est des talents qui travaillent avec des marques qui sont énormes. Donc, tu as un très, très gros delta, effectivement, entre les tout petits et les très gros.
Ah ben, ça c'est la première marche de la réponse. Elle est plus loin,
Attends,
Kevin.
je me suis dit, est-ce qu'il va se contenter de ça?
Ça va pas, non.
Non, je me suis dit,
Pense
non,
à
mais ça
tous les,
peut, en
je
fait,
pense à tous les auditeurs du podcast qui sont en train de courir. Il y en a beaucoup qui écoutent en faisant leur footing.
ouais.
C'est possible, on est tenu en haleine, il faut aller plus loin là. Oh.
Non, mais de toute façon, c'est entre, tu peux prendre entre, c'est comme des marques, hein, donc je vais trahir aucun secret de dire que ça peut être entre des dizaines de milliers d'euros jusqu'à des centaines de milliers de milliers d'euros, en fait. On
D'accord.
parle de ça, ou potentiellement même plus. C'est un peu comme quand une marque, elle s'associe avec un des joueurs, hein, clairement. Je pense que les prix, il y a pas mal de prix qui circulent, même sur le tarif d'un post Instagram pour une célébrité, pour des choses comme ça, on est dans ces eaux-là.
Est-ce que un contrat avec Daniil va dépasser le million chez vous, par exemple, ou c'est une fourchette que vous avez un cap, un palier à ne pas dépasser?
On a des budgets en fait concrètement parce qu'il y a un business model derrière, donc on peut pas dépasser un certain montant. Parfois, il arrive qu'on parle avec des talents et qu'on arrive au bout de la discussion et qu'on se met pas d'accord pour la bonne et simple raison que on n'est pas d'accord sur des termes financiers, que pour nous c'est trop élevé par rapport à ce qu'on compte vendre au lancement et sur les années à venir. Donc parfois les deals pètent, donc on a déjà une idée bien précise effectivement de là où on veut aller. Après, il y a de la négo, hein, toujours, et puis on tombe sur un chiffre en général qui nous va bien aux deux. Mais oui, des talents comme Daniil Medvedev, évidemment, ils essaient au début de maximiser, c'est le boulot d'un agent, son image. Mais après, nous, on n'est pas d'accord, on descend, et puis on arrive à un truc voilà, qui paraît cohérent.
Plus d'un million d'euros du
Mais je
coup ou
peux pas
pas?
donner de chiffres
Non.
précis. Non, puis je peux pas donner de chiffres précis parce que nos contrats, on est quand même voilà, assujettis à une clause de confidentialité qu'il y a sur nos contrats. Donc, si je commençais à donner des chiffres, j'aurais mon service légal qui m'enverrait directement un coup de jus.
Va pas s'en
Donc, je ne peux
sortir.
pas, ouais. Mais j'ai
Je crois
déjà donné quelques indices. Ouais.
que Caro Garcia avait été un très très bon lancement aussi. Tu peux nous en parler?
Ouais, Caroline Garcia avait été un super bon lancement en janvier de l'année dernière, parce que c'était la première tenniswoman sur la plateforme, parce qu'elle a une grosse communauté en France. Et en fait, on se rend compte que les talents qui marchent bien, c'est ceux qui ont une vraie communauté, plutôt qu'une audience. Donc Caroline Garcia, elle a vraiment des gens qui la suivent, qui l'adorent, Et donc, elle avait converti beaucoup de ses fans sur la plateforme et ça avait très bien fonctionné. On avait vendu de mémoire l'intro, elle avait vendu déjà plus de 100 000 euros en intro, c'est sûr. Et on avait généré effectivement un chiffre d'affaires qui était assez important sur Caroline Garcia. C'est l'intro qui avait bien fonctionné. Et tu vois, ça, c'est un enseignement qu'on a fait sur tous les joueurs de tennis qui est important, je pense, et qui va intéresser tous ceux qui regardent. C'est que finalement, ceux qui fonctionnent le mieux en termes de conversion, donc ils ramènent leurs fans, c'est pas ceux qui ont la plus grosse audience. Mais bon, ça, on connaît, tu vois, sur Internet, ceux qui ont la plus grosse communauté. Et il y a des énormes disparités. Par exemple, je peux te donner une information qui est ultra intéressante, c'est que Benoît Paire, c'est l'un des talents sur la plateforme, tout talent confondu, qui a ramené le plus d'utilisateurs.
Un chiffre à peu près?
Ouais, c'est en milliers.
C'est beau, hein? C'est là où tu vois l'engagement de cette communauté, quoi.
Ouais, de personnes qui font des déposits, hein. Je parle pas d'inscrits, hein, de personnes qui mettent de l'argent sur Benoît Paire. Et donc, effectivement, lui, tu vois, typiquement, c'est un talent qui est génial pour ça. Et au contraire, tu vois, on a des grosses stars internationales parfois qui arrivent sur la plateforme, qui vont ramener moins parce que elles ont c'est des followers mais pas des communautés. Et
Musetti, par
donc ouais,
exemple.
du coup Musetti, ça avait bien marché à l'époque parce qu'on l'avait mis, c'était quasiment le premier joueur et c'était audience italienne qu'on n'avait pas vraiment. Donc Musetti, ça avait bien fonctionné. Voilà. Après, tu as des territoires qui fonctionnent potentiellement moins bien, mais c'est parce que par exemple, c'est dû on va dire à Daniil Medvedev qui est suivi par des Russes, par exemple, les Russes peuvent pas s'inscrire sur la plateforme pour des raisons géopolitiques. C'est pas de notre fait, hein, c'est le prestataire de paiement par rapport aux embargos, etc. Et oui, effectivement, là, du coup, tu perds en puissance. Mais tu vois, Benoît Paire, il avait cartonné aussi chez nous.
J'essaie de trouver une star qui aurait pu faire un flop. Tu peux nous donner un indice ou pas? Ou tu nous diras jamais?
Non, je le dirai jamais. Alors, on va pas le dire dans le tennis, mais par exemple, dans le football, il y a un point, c'est que le sport individuel, quand même, les gens suivent le talent pour ce qu'il est. Dans le foot, ils s'abonnent souvent à la star parce qu'elle fait partie d'une équipe, parce qu'elle fait partie d'une équipe nationale. Donc, tu vois, ils vont s'abonner à une star, en fait. Ils vont s'abonner à une star parce que, y a tout un ensemble. Alors que sport individuel, sport de combat, c'est pareil, ça fonctionne bien.
D'accord. Je vois que Adrian est un peu en baisse. Casper Ruud coûte quasiment rien. Adrian, est-ce qu'il est en baisse parce qu'il vient de faire, je crois qu'il a fait deux firsts ou un.
Ouais, Adrian, alors il est en baisse parce que là, un peu tout le marché, pour te dire, tout le marché est en baisse, donc c'est assez macro. Et ensuite, Casper Ruud, en fait, c'est vrai que Casper Ruud, on l'a introduit en septembre.
Ouais.
Et depuis, Casper Ruud,
Pas
ça
de
a
nouvelles.
été un peu le downfall, on va pas se mentir.
OK.
J'espère que c'est pas son introduction royalties qui lui a apporté malheur, mais c'est vrai que depuis, Casper Ruud, il est sans mauvais jeu de mots, il est un peu fantomatique. Donc bon, on espère qu'il va revenir. Mais en général, il fait un beau printemps, Casper Ruud. Mais tu sais, Casper Ruud, c'est quelqu'un qui a un compte secondaire Instagram de golfeur qui monte de plus en plus.
Ah ouais,
Et
incroyable.
ouais, ah bah, Casper l'a rencontré à New York. On avait été faire le tournage à l'US Open.
Ouais.
Quelqu'un de très sympathique au demeurant, Casper Ruud. Mais très très droit. Tu vois, il était avec sa famille. Tu vois que voilà, les Norvégiens, ils sont, tu vois, c'est très très carré, tu vois. Et en fait, oui, il me disait qu'il jouait au golf beaucoup et il a un deuxième compte Instagram sur le golf. Et je pense qu'un jour il fera une transition dans le golf, donc c'est pas mal pour Royalty. C'est que même s'il arrête à un moment donné le tennis parce qu'il en a marre, bon, je pense que c'est pas demain, bah je pense qu'il se mettra à faire du golf, donc pourra poursuivre sa carrière.
C'est sa sœur, je crois, qui est très très forte. Je sais plus combien elle est, mais ouais, 13 000 abonnés, je crois, sur son compte golf.
Ouais,
Pas mal.
t'as vu?
Touche, touche sa bille, le Casper. Et quand vous
Ouais.
signez un Michael Moe ou
Ouais.
autre Jeffrey, John Wolfe et deux trois autres Américains, vous ramenez beaucoup de d'Amerlocs à ce moment-là sur la plateforme, ça convertit bien chez les Ricains.
Alors, Alors, à l'époque, en fait, le site était encore ouvert aux Américains quand on les a lancés, c'est-à-dire en janvier de l'année dernière.
Ouais.
Là, le site n'est plus ouvert aux Américains parce qu'on est en cours de régulation, en fait, aux US, auprès de la
D'accord.
SEC, qui est donc le régulateur américain. Et quand tu es en cours de régulation auprès du régulateur, il te demande évidemment d'arrêter de l'inscription aux Américains. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'ailleurs introduit d'autres stars américaines. On attend d'être sur place pour pouvoir le faire. Ça avait converti, ouais, ça avait converti pas mal. Après, là-bas, le fait étant que la marque est pas du tout connue, Royalties aux US. Donc quand on va arriver aux États-Unis, il va falloir mettre en place tout un plan de communication pour faire connaître la marque. Il manque les talents.
Du coup, le gros de votre clientèle, c'est quoi? C'est Europe? C'est quoi les pays les plus
Ouais, c'est Europe.
représentés?
C'est Europe, Europe centrale, et c'est surtout la France, hein, aujourd'hui,
D'accord.
parce que c'est en France où on a la trust, c'est en France où on a pignon sur rue, on est connu, on fait nos interviews, etc. Et c'est surtout la France où vraiment il y a une concentration de nos gros utilisateurs. Et après, ça commence en Espagne et en Italie.
T'as été entrepreneur depuis le plus jeune âge, tu me disais, dès tes 15 ans. Tu crées des sites internet pour les jeux. Non, ou tu crées des jeux vidéo, je sais plus trop ce que tu as dit.
Des sites internet d'actualité de jeux vidéo, ouais.
C'est énorme. À travers cette belle initiative, enfin, ce projet entrepreneurial de dingue, Royalties, notre cœur, c'est les anecdotes. Qu'est-ce que tu as vécu d'assez ouf à travers le tennis, avec les joueurs de tennis, où on peut même rayonner un peu à d'autres sports, mais si tu peux nous relater deux, trois histoires où tu disais que tu étais allé tourner. À l'US Open avec Casper Ruud ou j'en sais rien, des trucs que tu as vécu, que tu as appris, que tu savais pas, qui t'ont enrichi. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Ça serait quoi ton top 3 depuis que tu as créé la boîte, co-créé du coup?
Ouais, bah, si on va se centrer, alors après les anecdotes, il y en a plein, parce qu'une boîte comme ça, comme on travaille avec des talents au quotidien, des utilisateurs, un concept en face au milieu novateur où il y a quand même de l'argent, c'est un cocktail un peu, ouais, c'est un cocktail bien macéré qui se met au milieu. Mais si je vais prendre dans le tennis, il y a eu des choses effectivement intéressantes. J'ai rencontré Nick Kyrgios parce que je vais sur les gros tournages. J'aime bien, ça m'intéresse de parler avec les joueurs, de voir l'envers du décor.
C'était où avec Nick?
Alors, j'ai vu le seul match de Nick Kyrgios de l'année dernière, c'était à Francfort. C'était en Allemagne et en fait, du coup, il jouait, il devait revenir en Allemagne et puis finalement, il est jamais revenu. Mais du coup, je l'ai vu s'entraîner, jouer. On a passé un peu de temps avec lui. Il y avait sa copine aussi qui est tout le temps avec lui, qui prend ses stories sur Insta. Donc, c'est toujours très sympa de voir l'envers du décor avec les joueurs. Et c'est quelqu'un qui est vraiment, voilà, qui a un bon aura, qui est connu sur le circuit. Tu vois que tu vois, ce qui est marrant, c'est que tu voyais les joueurs un peu sortir de l'entraînement, et celui avec lequel tout le monde voulait prendre des photos, c'est Nick Kyrgios. Vraiment. Malgré que, en fait, il joue quasiment plus, etc. Donc, il a vraiment, enfin, il est connu. Et puis, tu vois, il a un faciès, il a un charisme. Tu le mec, tu vois, quand il arrive. Après, tu vois, une anecdote assez amusante pour revenir à Casper Ruud. On était à New York, donc pour le tournage. Moi, j'étais, on était, on fait souvent les tournages dans les chambres d'hôtel des talents parce que c'est plus simple pour eux. Donc, on monte dans sa chambre d'hôtel à New York. J'avais mon Mac dans la main. Je pose mon Mac sur son lit. Genre, je fais comme chez moi, tu vois. Et en fait, là, il est en train de tourner. Il regarde le Mac, il dit, faut enlever ça, tu vois. En fait, et du coup, on enlève le Mac. Après, son agent dit, non, mais en fait, c'est un obsédé par rapport à son lit. En fait, il veut hyper bien dormir, il veut que personne touche son lit, que son lit soit vraiment ultra plat. Et moi, je suis avec mon Mac, bam, le français, tu vois, qui arrive et qui se croit chez lui. Et donc, voilà,
Tu
il
peux
y a
taper
presque
une
un
pièce,
toc
Casper.
de c'est presque un toc de Casper Ruud. Et après, effectivement, tu vois, on a beaucoup les rencontres, bah justement, il y a toujours des anecdotes comme ça, c'est très sympa. Mais dans le tennis, c'est vrai que c'est des gens quand même qui sont, on a rencontré aussi Mira Andreeva, qui est très mature pour son âge. Vraiment, c'est impressionnant. Je pense qu'elle l'est sur le court, mais elle l'est aussi vraiment dans la vraie vie. Tu vois, dans sa manière dont elle s'exprime, dont elle parle, dont elle répond aux interviews. C'est vraiment déjà des personnes à 15 ans qui sont vraiment déjà formatées pour le succès. D'ailleurs, elle est chez IMG aussi avec le même agent que Medvedev. Et ça se voit, tu vois. Mais c'est impressionnant, tu vois, de voir quasiment une enfant, enfin une adolescente, non, mais tu vois, qui arrive clairement à faire des interviews comme si elle avait 30 ans. C'est
Ouais.
incroyable.
coup de
voir ça.
génie pour vous de la signer aussi jeune, non? Si elle devient top 10, top 5,
Ouais.
j'imagine que le prix actuellement est largement inférieur à ce qui sera dans 5-6 ans, quoi, même avant.
Oui, sauf que les agents et comme IMG, et ils ont raison, hein, pour le coup, on fait pareil dans les startups, c'est qu'ils valorisent quand même le talent sur le futur. Donc ils savent ce qu'est Mirandreva, ce qu'elle va probablement devenir. Donc c'est pas parce qu'on la prend maintenant qu'elle coûte beaucoup beaucoup moins cher que dans un an, par exemple.
Les joueurs débloquent des paliers aussi, si demain elle est top 20, top 10, top 5.
On a certains contrats comme ça, effectivement, avec des paliers dans tous les sports, hein. D'ailleurs, sur le football, ça peut être, si jamais le talent qui est très jeune, il va dans un top 5 club, eh bien, effectivement, il refait un placement et il y a un bonus qui lui est accordé. Donc ça, c'est potentiellement pour les très très jeunes talents, où effectivement, on va vers ce type de contrat. Mais en tout cas, le tennis, oui, puis aussi, voilà, Roland-Garros, tu vois, on a beaucoup d'accès, donc on peut aller voir les joueurs, donc on sait bien, on voit les coulisses de comment ça se passe. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est l'une des facettes, si ce n'est la facette de mon métier aujourd'hui, qui est la plus fun, pour le coup. Vraiment, sans découvrir l'envers d'un des codes du décor, tu sais, hein, c'est ce qu'il y a de plus intéressant quand t'es curieux.
Tu tapes la boulette, toi, un peu, Kevin, ou pas?
Non, alors le ping-pong, ouais, un peu. Le paddle, le tennis, non, je m'y essaie parfois, mais en fait, sans grande conviction. Voilà. Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés.
Qui ont été ces agents de génie chez vous qui ont réussi à dealer? Du coup, tu disais qu'il y avait des gens qui connaissaient bien le tennis, qui
Ouais.
foutaient bien le truc. Comment vous fonctionnez pour aller fais-nous un petit historique d'ailleurs de ces agents et
Ouais.
les premiers sportifs qui ont été signés. Je crois que le gros déclencheur chez vous, ça a été Antoine Dupont dans le rugby.
Ouais, on tombe du bon.
Est-ce que tu peux nous parler de ces personnes de l'ombre et puis de votre
Ouais.
cheminement du coup sur voilà votre success story quoi? Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est une boîte qui pèse très lourd, non? Donne-nous un peu justement l'envers
Ouais,
du décor.
on a plus de 200 000 utilisateurs. On double notre chiffre d'affaires l'année dernière. Donc, c'est une belle boîte, malgré un environnement économique qui est pas simple. Mais on est vraiment très content. Tu vois, on arrive avec 200 millions de 200 000 users, un chiffre d'affaires voilà qui s'approche des 10 millions sur l'année 2. Donc on est très content de la trajectoire. Et en plus, on n'a pas levé beaucoup d'argent en fait pour une boîte qui fait du licensing. On a levé un peu plus de 7 millions d'euros pour une boîte qui gère des licences, qui achète des licences. Ça coûte un certain prix. C'est pas beaucoup si on compare par exemple à d'autres comme Socios, Sorare ou d'autres boîtes qui achètent aussi des licences, qui ont levé des sommes beaucoup plus importantes. Donc c'est vrai qu'on a vraiment réussi avec peu de budget, eh bien à créer quelque chose aujourd'hui, au-delà de compter dans le paysage, bah, qui avec un modèle qui fonctionne et qui avance. Après, effectivement, au début, bah, comme d'habitude, comme on a dit tout à l'heure, c'est toujours le plus dur, c'est que on s'est pris franchement avec mon associé Christophe des portes, mais par dizaines en fait. Et même par des talents qu'aujourd'hui on ne voudrait potentiellement pas signer sur la plateforme, et parce qu'en fait tout le monde nous disait non, parce que déjà on n'était personne, que les gens ne nous faisaient pas confiance, parce que bah, le produit n'existait pas, que si on se met à leur place, on peut comprendre, et qu'on en parlait très très mal. Donc dans ces cas-là, tu sais, comme tout, le plus dur, c'est les premiers, en fait. Une fois que tu as les premiers, après ça avance. Les premiers gros noms qui nous ont fait confiance, c'est Antoine Dupont, Presnel Kimpembe. Ça c'est dans le sport et c'est vrai que ça après ça débloque le reste. Donc le but c'est de trouver tes premiers ambassadeurs comme pour les clients, hein, finalement c'est pareil, qui ensuite vont permettre de débloquer le reste, de faire en sorte que ça se passe bien avec eux et après ça avance. Et c'est vrai que les agents en fait avec lesquels on travaille ont un rôle qui est déterminant, mais surtout effectivement au début, parce que ça se joue beaucoup à la confiance en fait au début. C'est toujours la même chose, c'est la confiance. Et dans le tennis, on travaille avec une personne qui s'appelle Augustin. S'il regarde le podcast, il se reconnaîtra, qui est quelqu'un qui travaille, qui évolue dans le tennis depuis très très longtemps et avec qui on a une très bonne relation de travail et de confiance. Et voilà, c'est lui qui a ouvert les portes, qui a ouvert son réseau et qui nous a fait confiance aussi parce que bah, en se mettant on va dire au milieu des joueurs et de nous, bah, il ouvre aussi son carnet d'adresses. Évidemment, Il y a une relation commerciale, hein, bien sûr, pour que tout le monde puisse être vertueux, mais c'est comme ça, en fait. C'est vraiment, je pense qu'au début, de toute façon, c'est la confiance en business. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Il y a un moment, faut que tout le monde, tu vois, se dise, OK, on a confiance, on y va. C'est comme ça que ça marche. Hein.
Bon, deuxième épisode avec Augustin, du coup, qui nous régalera de toutes ces anecdotes dans le tennis. Augustin, c'est bien ça? C'est ton prénom?
Tout à fait, ouais.
Ouais. Combien d'employés vous êtes actuellement?
On n'est pas très nombreux, hein. On est en salariés, on est on est une petite vingtaine, en fait, en salariés.
D'accord. Je crois qu'au départ, vous aviez commencé dans le rap, non? Enfin, vous aviez des artistes.
Ouais.
Ouais,
complètement.
Est-ce que c'est toujours le cas ou pas? Et je crois que tu m'en avais parlé en off, ça avait plus ou moins bien marché. Est-ce que tu peux nous raconter?
Ouais, bah, non, mais après, c'est vrai que, en fait, alors déjà, heureusement que les rappeurs ont été là parce que c'est ceux qui nous ont fait confiance tout au début. Parce qu'avant de lancer dans le sport, en juillet 2021, on lance avec des rappeurs, VG Dream, Joey Douet-Filet, Sofiane. Et eux nous font confiance parce que je pense qu'ils ont un caractère un peu plus fonceur sans doute que les autres, et c'est eux qui nous ont permis vraiment de pouvoir lancer le produit. Sauf que, mais tu sais, ce que je te disais, c'est que c'est un peu comme d'habitude, quand tu lances un produit, tu travailles dessus depuis tellement longtemps que quand tu le lances et que tu appuies sur le bouton go live, tu penses que tout le monde t'attend, mais en fait personne t'attend. C'est ça la vérité, c'est que personne t'attend et tout le monde s'en fout. C'est la stricte vérité à chaque fois. Et donc, bah, du coup, au début, oui, nous, on s'est fait des hypothèses de lancement parce qu'on pense, on se dit, le concept, il est ouf.
On est des génies.
Forcément marqué. Et même si on a l'expérience de monter des boîtes et on sait que c'est pas le cas, malgré tout, t'as un biais cognitif quand tu lances. Et heureusement que tu te dis ça, parce que si tu te dis, je vais lancer un produit, en fait, ça va être ultra dur, je vais devoir monter le Mont Blanc en claquette tous les jours.
Ouais.
Je fais pas. Je dis, bah non, je le fais pas. Donc, heureusement que tu as cette candeur, mais c'est vrai que quand tu appuies sur le bouton, bah, du coup, ça marche pas comme tu veux. Et effectivement, les débuts ont été un petit peu chaotiques, slash décevants. Mais, et ensuite, on a relancé même plusieurs fois Royalties. On a relancé trois fois avant que ça marche. Parce qu'on était, convaincus du succès du concept. Et c'est là où, effectivement, faut jamais confondre, je dirais, abnégation et obsession un peu débile. Parfois, tu peux lancer un produit, en fait, il marchera jamais. Nous, on savait quand même, on avait étudié, hein, on regardait les premiers chiffres quand même de nos premiers clients, ça va marcher, c'est juste, faut les bons ingrédients. Et le temps de doser, tu vois, ça a mis du temps. Comme d'habitude, hein, de toute manière, il n'y a jamais de secret, les bonnes choses, elles prennent du temps. C'est très rare de lancer un produit, et puis que comme ça, en fait, par magie, tout marche, et c'est la lambada, c'est pas comme ça.
Et du coup, vous avez dû faire quoi? Retourner à lever de l'argent pour le deuxième, troisième lancement? Vous aviez...
Non, parce qu'on avait déjà levé au début, puis on était vraiment une petite équipe. Hein. Au début, on était 5-6, en fait.
D'accord.
On n'était pas nombreux, et du coup, on avait déjà levé avant, on n'avait pas forcément besoin. Donc non, c'est juste qu'on a surtout revu le produit, en fait. Le
D'accord.
produit ne correspondait pas à la V1 de Royalties, aucun rapport avec, très très éloigné de ce qu'on fait, de ce qu'il y a aujourd'hui.
Ouais.
C'est surtout ça, en fait, qui a changé, c'est vraiment le fait de bouger le produit.
Rien à voir, mais j'ai regardé hier le documentaire sur Clara Luciani et sa chanson La Bombe. La Grenade, La Bombe.
Ouais.
Au départ, elle n'a rien à voir avec la version actuelle qui a été streamée plus de 70 millions de fois.
Mmh.
Et donc, son équipe de directeur artistique dit, voilà, si on était resté à cette V1, ça aurait été une chanson de variété française un peu chiante. Et en fait, ils l'ont retravaillée. Ils ont fait plus de 120 versions de la chanson pour trouver l'actuelle. Je ne sais pas si tu vois. Ils ont même fait une version salsa qui est immonde. Et à la fin, quasiment la France entière a dansé sur ce tube, quoi. C'est ça qui est ouf.
C'est une question de recette, en fait. C'est que quand tu es sûr d'avoir les ingrédients,
ouais.
Quand tu fais un produit, après, par contre, ce qui compte, c'est la recette. Et la recette, c'est l'exécution. Et la recette, parfois, ça se joue vraiment à pas grand-chose. C'est si tu mets un peu trop de sel, ça ne marche pas. Si tu en mets un peu moins, ça ne marche pas. Donc, il y a vraiment ce côté dosage dans un produit qui est complexe à trouver et qui prend du temps et qui demande d'avoir, dit ce qu'on appelle itéré, quoi. Mais c'est vrai que, en fait, t'as pas le choix, en fait, de faire comme ça au début, de trouver la bonne recette. Passer du temps et de buter sur ton sujet.
Et donc, avant de parler des autres sports, je regarde là, donc c'est classé par marché, et donc dans le marché musique, vous avez Rodolphe qui vaut 81 euros, là où un Casper Ruud en vaut 0,76. Tu m'expliques? Ou même Dinor,
Ouais.
16,39 euros. Qu'est-ce qu'ils
Ouais,
ont,
parce qu'en
ces
fait,
gars-là?
alors, ils ont ces gars-là que, en fait, ils sont sur un ancien système qui s'appelle carnet d'ordre. C'est un
D'accord.
système avec lequel on sait, où tu as un acheteur et un vendeur en face. Il y a peu de rayons de circulation,
OK.
ce qui fait que le prix monte beaucoup. Donc là, c'est complètement décorrélé, on va dire, de la réalité. Et là, on est en train de transférer, de convertir tous ces ROI du modèle order book vers le modèle actuel pour que ce soit sur des prix qui soient des prix en rapport avec le marché. Donc
D'accord.
voilà pourquoi ils sont sur une autre planète, ces deux-là.
OK. Vous avez musique, entertainment et business. Dans business, je vois Blaise Matuidi.
Ouais.
En quoi est-ce qu'on peut évaluer les fluctuations de son ROI? Il investit dans quoi, Blaise? J'ai pas du tout suivi, moi.
Voilà. Blaise Matuidi, aujourd'hui, il a plusieurs entreprises. Il a aussi un gros fonds d'investissement avec des sportifs qui s'appelle Origins. C'est
Ouais.
un fonds d'investissement qui investit dans des boîtes tech où il a embarqué beaucoup de ses potes dans le sport. Et donc, ça, c'est un investi un ce qu'on appelle un VC sur le marché tech qui investit dans des boîtes. Donc, c'est lui qui est à la tête de ce VC. Il est général partner, ce qui a un rôle quand même clé dans cet écosystème-là. Et il a d'autres business en parallèle, et puis il est toujours présent sur les réseaux sociaux. Donc là, les utilisateurs, ils investissent sur sa capacité effectivement à continuer à générer du business, au même titre que Khabib, que tu peux voir à côté dans la rubrique business. Khabib, qui est mondialement connu, le fighter, qui a plus de 60 millions de followers. Et lui, c'est pareil, il a arrêté le fight, mais il a son académie de fighter, il a des restaurants Khabib Burger en Russie, il va faire un deal avec le PSG qui va s'appeler Khabib PSG. Enfin, on a aussi effectivement cette rubrique entrepreneur où on peut mettre des talents, tu vois, qui sont en retraite sportive, mais qui ont quand même un business.
Il nous a rapporté de l'utilisateur un peu, Khabib. Ça marche bien?
Khabib, ouais, Khabib, ça avait cartonné. Ça avait
Khabib, c'est
cartonné
mort.
Khabib parce que, c'est un peu comme en bourse, c'est une flagship. Enfin, c'est tellement connu que, en fait, ça avait effectivement, ça avait cartonné, surtout dans le monde du fight. Parce que même s'il a 60 millions de followers, même si t'as beaucoup de followers russes, malgré tout, il y a une aura qui est sur ces talents-là, c'est des stars internationales, qui est forte et qui dépasse vraiment les réseaux sociaux.
Les Russes peuvent pas vous rejoindre, tu disais tout à l'heure.
Pas investir sur la plateforme, non.
Dans le fight, ça convertit bien aussi.
Ouais, Fight, le MMA, c'est vraiment un secteur qui a le vent en poupe, notamment en France,
Ouais.
qui est en pleine croissance. Donc là, oui, d'ailleurs, en ce moment, on fait beaucoup de MMA parce que ça convertit, ça marche, il y a du buzz avec Baki, Cédric Doumbé, Benoît Saint-Denis, Salahedine Parnasse, Cyril Gane. En France, on a la chance d'avoir vraiment des fighters qui sont sous la lumière. Et surtout, cette année en France, il y a l'UFC, il y a le KSW, il y a PFL, toutes les ligues, elles viennent en France en fait. Donc là, on va avoir une grosse, grosse année 2024 sur le MMA.
T'as des anecdotes sympas entre les rappeurs, les businessmen, les fighters, avant de passer aux joueurs de foot, rugby et peut-être sport mécanique?
Ouais, il y en a plein, c'est dur à en trouver qui me viennent comme ça, mais les fighters, ouais, par exemple, les fighters, effectivement, les bosser avec la team Khabib, c'est quand même très très particulier. On a beaucoup de leurs fighters en fait de sa team, mais c'est des gens en fait qui sont vraiment dans un mindset de combat, mais c'est fou. C'est en fait, quand tu les rencontres, en fait, eux, enfin, ils font qu'une chose, c'est s'entraîner matin, midi, soir. C'est pas des gens qui sont très orientés médias, réseaux sociaux, tu vois. Ce qu'ils postent sur les réseaux sociaux, en général, c'est des trucs, c'est des contenus dans les montagnes du Daghestan. Mais c'est vraiment ça. C'est que c'est des mecs qui sont, ils se lèvent le matin pour, tu vois, avec cette mentalité de tueur, tu vois. Et c'est pour ça que eux, ils sont au-dessus de tout quand ils vont à l'UFC. Parce que déjà, en fait, ils s'entraînent dans les montagnes du Daghestan, vraiment à des altitudes très, 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 très hautes. Et donc, quand ils arrivent, en fait, à l'UFC, ils butent tout le monde. Et c'est vraiment des machines de guerre. Tous ces mecs-là, Islam Makhachev, Ikram Aliskerov, Khabib. Et en fait, bah, après, on n'a rien sans rien. Et c'est des mecs, par contre, qui roulent sur tout le monde à l'UFC.
Vous êtes allé tourner là-bas, dans les montagnes?
Non, pas au Daghestan, mais j'aurais bien aimé. Mais non, en général, on tourne avec eux dans d'autres lieux. Mais c'est quand même des rencontres assez perturbantes parce que tu vois que c'est des personnes qui sont pas sur la même énergie que nous. Vraiment.
Ok.
Tu vois, ils ont un objectif en tête, ils s'y tiennent. C'est pas des talents qui vont aller le samedi soir à la boîte de nuit du coin à Dubaï. Tu vois, eux, ils boivent vraiment zéro alcool, ils sont ultra ultra stricts envers leur plan, tu vois. Et ça, c'est des rencontres qui sont assez intrigantes parce que c'est pas du tout, c'est encore très très différent.
Et du coup, quand vous avez signé les premiers contrats avec les rappeurs, c'était un peu le grand écart, non? Installe-toi, prends un petit verre, on sort.
Ouais, les rappeurs. Ouais,
et puis on commence à parler.
Ouais, on avait une anecdote d'un de nos agents qui avait dit qu'il avait signé, alors il le connaît, hein, donc je précise qu'il avait discuté aussi avant avec lui, mais qui avait signé un rappeur dans un kebab. Voilà, c'est une anecdote, c'est une anecdote marrante du début. Du tout début, voilà. Mais effectivement, c'est ça qui est super avec le job qu'on fait, c'est qu'on rencontre des gens d'univers très très différents et avec des énergies différentes. Une anecdote aussi, on a fait le tournage dans Entertainment Hajboula, tu sais, je sais pas si tu vois le petit Hajboula qui est devenu un mème sur internet, qui fait aussi partie de la team Khabib et de l'UFC. Et on a fait le tournage de Hajboula à Abu Dhabi. Et là, on l'a rencontré. Et c'est vrai que on a fait là toute une mise en scène avec lui. C'était hyper, hyper, hyper amusant. Mais faut comprendre aussi, par exemple, que tous ces gens-là, en fait, ne fait business qu'avec Russe. Et typiquement, toute la team Khabib à Hajboula, on l'a fait que parce qu'on a une personne avec qui on travaille, qui est russe et qui fait le go-between avec eux. Sinon, c'est même pas la peine. En fait, on peut pas travailler avec eux parce qu'ils parlent même pas, en fait. Hajboula et toute sa team parlent même pas anglais. Donc, il faut des gens qui sont russes et ils ont pas confiance au
reste du monde.
À ceux qui ne sont pas, voilà, au reste du monde. Et donc, tu vois, il faut aussi que si on veut ces talents-là, il faut savoir hacker le système pour arriver, en fait, jusqu'à eux. Et juste ça, par exemple, pouvoir atteindre un Hajboula pour parler avec ses agents. Encore une fois, si t'es pas russe, que t'as pas les bons contacts, tu peux même t'appeler Nike, je pense que c'est impossible.
D'accord. Et Khabib, Khabib, tu l'as rencontré?
Non, Khabib, je l'ai pas rencontré, c'est d'autres personnes qui l'ont fait. J'étais à Tokyo à ce moment-là et c'était à Dubaï. Khabib, apparemment, tournage très bien passé, mais pareil, le mec, il avait pas le temps, quoi. C'est allez, go, bam, on fait la story, on fait les photos, c'est parti, allez, merci, au revoir, pas le temps de discuter ou de, tu vois, de prendre le thé, quoi.
J'ai un Khabib Burger à gérer qui est en ouverture, là.
Ouais, non, c'est.
Il y a combien de talents sur la plateforme aujourd'hui?
Plus de 200.
Plus de 200, d'accord.
Ouais.
Quelque chose en particulier à signaler sur les sports auto? Une petite histoire sympa?
Ouais, sport auto, sport auto, on démarre, on n'a pas beaucoup de talent pour le moment. Sport auto, on a des pilotes de Formule 3, Formule 2, mais en fait, on les prend parce qu'on estime qu'ils peuvent monter en Formule 1 dans les prochaines années.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Donc c'est pour ça que c'est des belles histoires pour nos utilisateurs de miser sur un pilote de Formule 2, Formule 3 et qui va pouvoir monter un peu plus haut. Et on a surtout un pilote qui s'appelle Adrien David avec lequel qui était notre premier pilote et avec lequel on travaille beaucoup sur des opérations de communication. Et lui, c'est quelqu'un qui est très impliqué sur la plateforme à tel point qu'il est même il est membre même sur Discord, très actif. Donc Discord, c'est l'outil où tu peux chatter entre les utilisateurs, et il vient souvent parler avec les users, il fait ses propres jeux concours en disant voilà, là si jamais si ceux qui ont acheté D-Roy, vous participez à un tirage au sort avec moi pour pouvoir faire une course, Donc, tu vois, lui fait partie des talents qui est très, très impliqué sur la plateforme et qui le comprend bien et qui est utilisateur de la plateforme. Parce qu'on a des talents qui utilisent au quotidien Royalties et lui en fait partie.
C'est quoi le panier moyen d'un utilisateur?
Le panier moyen, alors ça dépend ce qu'on appelle panier moyen. Tu veux dire le panier moyen, combien il dépense par mois, un utilisateur?
Ah, c'est mensuel, c'est du coup, variable. C'est des dépenses mensuelles. Enfin, c'est si tu Ah oui, ça varie en fonction.
Ouais, tu peux mettre. Ouais, en fait, c'est pas ça. C'est juste que nous, en fait, on calcule de manière mensuelle parce qu'un utilisateur, tu vois, il peut faire plusieurs dépôts sur la plateforme. Mais le dépôt moyen sur la plateforme, si on prend un peu en médian, on est plutôt vers les 87 euros.
D'accord. Ok.
Donc le dépôt moyen, voilà, quand tu crédites avec ta carte de crédit.
Et généralement, 87 euros, c'est réparti sur plusieurs personnes, plusieurs sportifs.
Ouais.
Et c'est quoi, généralement, les mises, entre guillemets, mises sur, par sportif? Il y a une moyenne là-dessus?
Ouais, ça varie vraiment, hein. Y en a certains qui peuvent mettre des sommes très importantes sur un talent parce qu'ils y croient, parce que le rendement, il est élevé. Indique Kyrgios, par exemple, il y a des utilisateurs qui ont mis beaucoup d'argent sur lui.
C'est combien beaucoup?
Parce que beaucoup, ça peut être en dizaines de milliers d'euros.
Ah oui, quand même.
Oui, on a des utilisateurs. On a l'utilisateur le plus important de la plateforme. C'est un utilisateur qui a déjà investi sur la plateforme plus de 500 000 euros.
La vache. Et on sait plus ou moins à combien il est?
C'est-à-dire combien sa performance, tu veux dire?
Ouais.
Ouais, bah sa performance, il a un rendement lui annuel estimé à peu près 13%.
Mais c'est donc, énorme. Tu vois,
ça lui fait un. Ouais, bah, sur les talents, ouais, tu peux avoir des beaux rendements.
Du coup, avec des gars comme ça, vous perdez vachement d'argent, non?
Non, parce que en fait, c'est proportionnel en fait. Tous les rendements, ils sont calculés en fait au moment de l'introduction.
D'accord.
Donc on perd pas d'argent plus. En fait, c'est pas parce que plus il y a de volume, plus on perd d'argent. Au contraire, plus il y a de volume, nous, comme on est sur des frais de transaction qui font partie du modèle, plus il y a de transactions et plus on gagne de l'argent.
Et tu dirais que c'est quoi la proportion des gens qui gagnent de l'argent sur Royalties versus ceux qui en perdent?
Bon, clairement, il faut pas se mentir. Hein. Il y a un risque de perte de capital sur la plateforme. Hein. Et surtout, en fait, comme en bourse, quand t'as un gagnant, t'as un perdant. D'accord. En général, c'est comme ça que ça marche. Quelqu'un gagne, quelqu'un perd. Donc après, ça dépend parce qu'en fait, si tu prends juste l'aspect, on va dire, trading, t'as un gagnant, un perdant. Après, il faut regarder en fait ce que l'utilisateur gagne à l'année avec le rendement, son capital. Et on a aussi, autour de ça, on met en place ce qu'on appelle des missions pour gamifier un peu l'expérience. Ça veut dire que les utilisateurs, ils peuvent gagner des récompenses en effectuant en fait certaines actions avec un certain nombre de volumes de trades, en atteignant un certain rendement ou en invitant des amis. Donc il y a tout ça en fait mis bout à bout, ils y ont accès dans leur wallet, c'est ce qui fait vraiment la performance des users. Il y en a qui ont notamment comme je te disais des très beaux rendements annuels qui dépassent de très loin ce qu'on peut voir dans le secteur notamment.
Et t'as un exemple ou deux d'expérience vécue par exemple dans le tennis en fonction du wallet, du porte-monnaie comme tu l'appelles?
Tu veux dire côté utilisateur?
Ouais, quand tu débloques des paliers d'investissement, t'as quoi comme expérience à la carte?
Ah ouais, bah là en fait, alors c'est une bonne question parce que là on va vraiment accélérer. On l'a fait avec Corentin Moutet. Typiquement en fait, voilà, ceux qui achetaient un certain nombre de Roy Tennis avaient accès à une expérience avec Corentin Moutet permettant de faire un entraînement avec lui. Donc en tant qu'utilisateur, tu fais 2 heures de training avec Corentin Moutet pour apprendre son service à la cuillère, tu vois. Ça, c'est le genre d'expérience qu'on met en place. On avait aussi offert des places VIP à Roland-Garros avec Karen Khachanov. Et là, on lance une nouvelle fonctionnalité, d'ailleurs, dans les prochaines semaines, qui s'appelle le shop, où là, clairement, tu vas pouvoir échanger des ROI contre des expériences, contre du merch dédicacé.
D'accord.
Par exemple, échanger 200 ROI de Kyrgios contre un maillot dédicacé de Kyrgios. Le ROI va devenir une monnaie, quelque part. Voilà.
Ouais, ouais. Une anecdote ou deux sur le rugby et le foot?
Ah, le foot, il y en a pas mal. Enfin, il y en a pas mal. Quand je dis il y en a pas mal, le foot, ils sont souvent très en retard. Donc, le foot, quand on va faire des footballeurs avec mes collègues, quand on va faire des shootings, on sait qu'ils vont être très en retard. Donc,
Ah ouais.
il nous est déjà arrivé d'attendre 7 heures.
Oula. C'est
Un
qui?
Brésilien, ouais. Un
OK.
Brésilien dont la première lettre du nom de famille commence par P. qu'on a attendu très sympathique au demeurant, on a attendu 7 heures en bas pour qu'il arrive enfin en disant ah désolé je faisais une sieste.
Luca Paqueta, sympa.
Donc non, on attend très souvent les footballeurs effectivement ont une notion temporelle qui est très très différente de la nôtre et on le sait d'avance avec Royalties qu'on se dit ok bah, là on va attendre et on prend vraiment la marge. Après j'ai fait aussi une expérience sympa c'est qu'on a été chez Vinicius Junior carrément chez lui, il nous a
Ouais.
invités dans sa maison à Madrid. Donc bah, il a une superbe demeure hein, voilà avec terrain de volley, piscine, 5 étages et chez lui c'est marrant c'est qu'il y a énormément de monde comme les Brésiliens en général. Donc il y a sa famille, ses potes, les potes de ses potes, ça fourmille en fait,
Il
tu vois,
régale.
chez de monde il régale, ouais, je pense. Et pareil un moment sympa, tu vois quand tu vas chez les joueurs, on était aussi chez Wesley Fofana à Londres, et il a une salle d'arcade en bas de chez lui, dans son sous-sol, une salle de jeux vidéo d'arcade démentielle.
On n'a pas
Genre
le même
avec
niveau.
vraiment... Ah bah il a une salle d'arcade comme quand tu vas dans une fête foraine, tu vois, chez lui. Ouais, bah, tu vois, tu découvres en plus des superbes maisons, ça donne envie, tu te dis bon...
Kimpembe, t'as un truc, vous avez un truc ensemble ou quoi?
Pembe non, parce que Kimpembe, je l'ai pas rencontré personnellement.
Ok. C'était qui le footballeur qui vous a ramené le plus d'utilisateurs?
De tous les footballeurs comme ça, alors j'en ai certains qui me viennent en tête. Leao avait vraiment très bien fonctionné. Leao nous avait ramené beaucoup d'utilisateurs, grosse communauté.
Il joue où?
Il joue à Milan parce
D'accord.
que je pense que les gens aiment bien les dribbleurs, les talents un peu flambeurs comme lui. Camavinga aussi, Eduardo Camavinga nous avait ramené beaucoup de monde et on avait été faire le tournage à Madrid aussi avec Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Et un très bon moment, Aurélien Tchouaméni, qui est aussi investisseur de Royalties, qui a mis un beau ticket
D'accord.
en tant qu'actionnaire dans la plateforme. Et lui, effectivement, c'est quelqu'un qui est très orienté aussi business. On parlait tout à l'heure de Karen Khachanov, mais Aurélien Tchouaméni, d'ailleurs, il vient d'ouvrir son LinkedIn, j'ai vu hier. Voilà, c'est quelqu'un qui veut vraiment se projeter dans l'investissement, l'entrepreneuriat.
Ça, une ouverture de compte LinkedIn direct, l'algo le prend en compte?
Non, parce qu'on ne prend pas en compte LinkedIn. Pas
Non.
encore.
Bah alors.
Non.
Ok.
Non, non, pas encore. On est vraiment sur Insta plutôt là où qui est un peu le master social media pour nos talents.
Vous avez TikTok, X,
Non.
Facebook, tout ça, non? Que sur
Non,
Insta, d'accord.
non. Ouais, mais en fait, c'était un choix aussi. C'est que en fait, on a détecté que Instagram, c'est quand même ce qui drive vraiment la croissance du talent, parce que c'est là où le talent il fait tous ses placements promotionnels sont en général sur Instagram. Donc, t'arrives à traquer justement au mieux les placements promotionnels des talents sur Insta.
Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer l'avant-après Antoine Dupont et puis pareil, une deux histoires dans le rugby?
Ouais, Antoine Dupont, bah, avant Antoine Dupont, comme on disait tout à l'heure, la plateforme, elle avait du mal à décoller. Clairement, on se cherchait. Donc, on lance Antoine Dupont, c'était un 15 décembre de mémoire. On le lance, c'est juste avant qu'il soit élu meilleur joueur mondial, donc le contexte a bien aidé. On le lance et là, l'introduction est sold out très rapidement, en quelques heures, ce qui n'était jamais arrivé sur Royalties avant. Et là, on voit le prix commence à monter, il y a plein de gens qui commencent à rentrer sur la plateforme, des milliers d'utilisateurs qui
Ah
commencent à
ouais.
utiliser le produit, qui en parlent. On a des articles dans la presse. Là, vraiment, ça fait un effet, bah, comme on peut appeler ça, un effet buzz. Là, enfin, il y avait l'effet viral, clairement. On voyait les boucles virales, les gens s'invitaient. Enfin, là, t'as tout qui s'allumait, si tu veux.
Et
Et
puis
là, en
Antoine
fait.
Dupont, ça dégage de la confiance. Ça dégage un mec hyper
Ça.
éduqué.
Tout à fait, on est sur un business quand même de confiance. On est sur une plateforme où il y a de l'argent. Donc, je pense qu'on avait vraiment besoin de cette caution-là, qui est Antoine Dupont, pour vraiment faire démarrer le business. C'était l'élément déclencheur qui nous fallait. Et t'as raison, c'est que Antoine Dupont, tu lui fais confiance. Donc c'est vraiment à ce moment-là où il y a eu un avant-après parce que c'est là où la plateforme elle a vraiment décollé et qu'on a acquis nos premiers vrais utilisateurs qui sont venus par milliers, et puis après c'était parti, quoi. Après, il fallait répliquer, il fallait exécuter correctement, c'est sûr, mais c'était, il y a eu vraiment un avant et un après. Et là, psychologiquement, ça fait vraiment, vraiment du bien, parce que quand tu traverses le désert, sans eau, en général, c'est un peu ça qu'on dit les entrepreneurs, mais c'est un peu ce sentiment-là. Bah, quand t'arrives, en fait, et que, bah, là, tu découvres un oasis plein d'eau et que ça marche, enfin, t'es content, tu vois. Tu dis,
860,
enfin, ça y est.
tu m'étonnes. 870 000 abonnés actuellement. À l'époque, il en avait combien?
Ouais. Non, il en avait 160, un truc comme ça, je crois.
Ah ouais, en plus, il a explosé. C'est incroyable.
Bah, juste après, parce qu'en fait, il y avait contexte, donc contexte meilleur joueur du monde.
Et c'est une vache à lait constante qui continue de vous rapporter du monde en permanence, ou ça dépend des activations que vous faites avec lui. C'est quoi dans le contrat? Vous faites des postes tous les combien? Ça marche comment?
Non, ça dépend. En fait, c'est soit on a des contrats, effectivement, où on a des postes qui sont dédiés dans le temps. Là, typiquement, Antoine Dupont, il doit rester potentiellement une activation qu'on fera au moment des JO, sans doute.
D'accord.
Ou soit, en fait, on concentre les postes sur le lancement. Ça dépend. Typiquement, Miranda Riva, on a tout concentré sur le lancement à l'introduction. Mais on peut parfois se dire qu'on étale, en fait, dans le temps. C'est vraiment dépendant du contrat et de ce qu'on signe.
Et après, c'est comme les marques lambda, c'est des appearances, vous utilisez les talents X fois par an, c'est ça?
Quand tu dis utiliser, c'est dans quel sens?
Bah, une marque va l'utiliser pour une interview sur un
Ouais.
podcast comme
Ah oui.
Techland, ou
Ouais.
un shooting, ou un clinique, tu sais, aller taper la balle avec les jeunes, ce genre de
Ouais.
choses.
Bah nous on a ça c'est dans les contrats ou alors on fait des avenants. Là, typiquement pour le shop là qu'on va lancer, on va faire des avenants avec les talents pour qu'ils nous proposent des expériences ou du merch. Donc soit c'est prévu à l'avance,
Ouais.
soit on doit faire un avenant ou troisième option pour ceux avec qui on s'entend très très bien. Bah ils le font de bon cœur et gratuitement, tu vois, quand on leur demande de venir à une interview, quand on leur demande de faire un event avec les users, de nous passer des places en VIP pour un événement, ils le font parce qu'ils aiment bien la plateforme.
Mais avec un Daniel que vous avez signé 10 ans, vous avez des
Ouais.
activations uniquement la première année, ou vous avez quand même des trucs tous les ans?
Bon, là, Daniel, typiquement, tu vois, on a fait toutes nos activations le jour du lancement de son
Ah ouais,
introduction.
vous avez tout grillé, quoi. D'accord.
On a tout grillé, ouais. Après, ça nous a rapporté. Donc après, c'est une question de choix. Hein. T'as tes cartouches. À quel moment tu les tires? Nous, on a choisi de les tirer, de tout concentrer sur le lancement. Ça nous a plutôt réussi, mais on aurait pu choisir d'étaler dans le temps. Et après, on aurait pu aussi négocier avec eux, tu vois, de faire autre chose, des interviews et tout. Mais ça, c'est un peu plus compliqué. Honnêtement, les joueurs sont pas très très friand en fait de faire des interviews. Je pense qu'il y a un peu le côté voilà, le joueur en fait si tu veux ce qu'il veut c'est jouer au tennis, jouer au golf, tu vois. Et parfois ça les saoule un peu ce côté de faire des interviews sur un sujet en plus qu'ils maîtrisent pas forcément à 100%, tu vois, si on leur parle de choses en dehors de leur scope de compétences.
Bon, heureusement, moi j'arrive à les convaincre, donc ça c'est cool.
Ouais, c'est bien. Ah, tes médias, effectivement, c'est plus simple. Nous, ils se disent qu'il y a quelque chose ils se disent, bah, je vais le faire, mais un peu comme ce que tu me disais tout à l'heure sur Karen, ils se disent, je vais le faire, mais par contre, ce sera pas gratuit, coco, tu vois. Donc,
Sur tous les sports, pour reprendre tous les domaines d'activité même, tu dirais que c'est lesquels les talents ou les athlètes les plus faciles avec lesquels travailler? Peut-être les plus éduqués, les moins en retard, tu vois, si tu devais tout combiner, je dirais que c'est quoi le bon mix, la crème?
c'est dur parce qu'il y a des individualités partout. Maintenant, comme je te disais, tennis c'est ultra organisé, c'est-à-dire qu'ils dépendent quasiment tous d'agences, donc c'est beaucoup plus processé. Ce qui est
Ouais.
bien dans un sens, c'est que tu sais que quand tu vas aller faire le tournage, le joueur sera là, l'agence sera là, c'est bien organisé, tu vas pas te pointer, il y aura personne. Donc ça, c'est vraiment agréable. Maintenant, ça peut être plus complexe en initiation parce que justement, tu fais face à des très grosses écuries. Donc forcément, en face, tu as des avocats, tu as des gens qui savent comment ça fonctionne. Donc ça peut être beaucoup plus long et un peu plus casse-tête. Au contraire, effectivement, du fight où là, comme les fighters ils sont un peu moins entourés pour des questions financières aussi, bah forcément, c'est un peu plus à la route. Et ce côté à la route bah, peut te permettre de closer des deals plus rapidement. Ça ne veut pas dire moins cher. Attention, les fighters sont des gens d'ailleurs très intelligents. Et ça, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Mais pour faire un sport comme du MMA, il faut être très, 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 très smart parce que le QI compte beaucoup sur le ring. Mais comme ils sont moins entourés, ça va plus vite. C'est un peu plus à la bonne franquette, je dirais, avec eux, avec les fighters. Ça a aussi des inconvénients, des avantages, des inconvénients, c'est que bah, parfois, toujours pareil, les retards, les tournages, où le mec, il n'est pas là, on ne sait pas trop où tourner. Enfin, voilà, faut savoir s'adapter. Et après, tu as le foot, un peu le folklore de tout. Tu peux tomber sur des joueurs qui sont très entourés, et parfois même mal entourés, parce que tu sais, quand il y a de l'argent, tu as beaucoup de monde qui gravite autour des joueurs. Hein, c'est connu. Et donc, parfois, bah, tu mets beaucoup de temps à signer, à tourner, parce que tu as toujours un mec dans l'entourage qui va dire, ah, non, faut faire comme ci, faut faire comme ça, ou qui s'invente conseiller. Tu as beaucoup dans le foot des conseillers, des conseillers de voilà, qui s'autoproclament, tu vois, conseiller. Comme si moi, je te
C'est
disais, je suis
dur de
avocat.
dealer avec tout ce beau monde. Ouais.
C'est très, très dur. Franchement, les gens qui travaillent avec nous, qui sont talent managers, on a déjà fait des deals dans le football notamment où il y a énormément de personnes impliquées, mais c'est comme ça que ça marche. Et du coup, bah, c'est toujours pareil. Quand tu fais un deal où tu as 5 personnes impliquées, c'est tout de suite tu t'arraches les cheveux parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord, que tout le monde soit OK. C'est complexe. Franchement, il y a des deals, c'était vraiment des. C'était à se tirer les cheveux dans le football. Mais voilà, on y arrivait. Plus on avance quelque part et plus c'est facile parce que plus on a de joueurs. Et plus t'as cet effet d'entraînement qui fait qu'en fait, c'est plus simple.
Votre top 5 des meilleurs lancements, tu peux nous donner les montants et les noms?
Ouais. Alors, les montants, je peux pas tous les donner parce qu'on les a pas tous révélés. Dani Medvedev, on avait décidé de communiquer dessus. C'est pour ça que je l'ai donné. Par contre, le top 5, je peux le donner. Alors, peut-être qu'il y aurait un peu d'approximation, mais en tout cas, c'est Dani Medvedev, c'est Khabib, c'est Kamavinga.
Et alors, attends, Daniel en 5 ou en 4, 3
Non, Daniil, je pense que Daniil, je vais essayer de me faire la recomposition dans la tête, mais Daniil, je pense que c'est au sommet de la pile.
Donc
T'as
600 000.
Daniil, t'as Khabib qui doit être juste derrière. T'as Kyrgios aussi qui avait fait un très très gros lancement. Malgré tout, Casper Ruud aussi avait vraiment bien fonctionné. Et Kamavinga et Chimaev aussi, le combattant MMA. Et Cyril Gane aussi, en fait. Là, je t'en prends plusieurs, mais ouais, t'as Cyril Gane, Chimaev, Khabib, finalement, Kamavinga, finalement, les plus gros en termes de popularité.
Ouais.
Ce qui est assez logique en soi.
Les Australiens peuvent placer de l'argent chez vous ou pas encore?
Ouais, si, les Australiens, on avait pas mal d'Australiens pour Nick Kyrgios, effectivement, qui était venu en fait sur la plateforme. Lui, il a une bonne communauté aussi qui le suivent. Même si l'Australie, c'est vrai que c'est à l'autre bout de la terre, je dis ça parce que en fait, c'est jamais évident quand tu es une plateforme française de convaincre des Australiens, parce que c'est comme ça. C'est comme si nous, en fait, on allait sur une plateforme qui était, je sais pas, en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Donc, tu vois, t'as quand même cette barre, même si le style est en anglais, t'as quand même
Mes filles, bien sûr.
voilà, beaucoup plus, t'as moins de trust, tout simplement. Quand plus t'es loin, moins la trust elle est forte, c'est comme ça. Hein. Mais ça avait quand même ramené pas mal d'Australiens. Ouais.
Tu parlais d'ailleurs tout à l'heure d'un label Trust que vous avez qui est en France. Ça dépend de quoi? Comment ça s'obtient? Ça marche comment?
Tu veux dire quand tu dis le label?
Je sais pas, tu nous as dit notre trust, il est en France. C'est quoi? C'est.
Ah non, ouais, trust, en fait non, trust c'est simplement, alors là c'est mon anglicisme, le trust c'est le fait que les gens aujourd'hui en France, tu
Ok,
vois,
j'ai compris. Ouais.
voilà, ils nous suivent, ils croient en notre légitimité, notre crédibilité, on l'a là clairement en France, parce que c'est ici en fait qu'on est, on est locaux, on parle français, et c'est beaucoup plus simple de démarrer en France. Et nous, on fait quand même de la finance et c'est de l'argent. Et forcément, tu as cette partie-là où faut convaincre de ta légitimité dans les autres territoires où tu vas. C'est comme ça.
Et vous avez un tampon particulier qui montre que demain, Royalties ne va pas disparaître avec l'argent de tout le monde. Mackenzie, là, les avocats, ils vous ont obtenu une sorte de label ou pas?
Non, bah, t'as pas. Alors, tu as plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle la régulation. Donc, ça,
Ouais.
c'est la régulation pour devenir un produit financier. C'est ce qu'on est en train de faire aux États-Unis avec la SEC et potentiellement aussi en France. On va voir, c'est des discussions qu'on a. Donc ça, c'est la régulation, mais la régulation empêche pas une société potentiellement de disparaître, hein, comme toutes les boîtes dans le monde. Donc t'as été une société, on est une SAS, on a une holding. Après, qu'est-ce qui est un garde-fou pour les utilisateurs, c'est que l'argent n'est pas chez nous, l'argent est chez MangoPay, typiquement dans les wallets. C'est MangoPay, en fait, notre prestataire de paiement qui gère tous les flux financiers. Donc c'est pas voilà, tu peux pas demain te dire je pars avec entre guillemets je pars avec la caisse. Voilà, c'est pas possible. Oui, et puis voilà, c'est jamais aussi caricatural, et du coup effectivement on travaille avec un prestataire de paiement qui assure lui toute cette partie là.
D'accord. On s'était parlé il y a un an et tu me disais que ton rêve bon, c'est aussi un challenge, hein, c'était de devenir une licorne. Une licorne, je crois que c'est une entreprise qui dépasse le milliard de chiffre d'affaires, non, c'est pas ça?
C'est qui dépasse le milliard de valorisation.
De valo, en
fait,
ok.
Ouais, de valo. En fait, on dit ça, mais au travers de la mission Care Royalties, et de ce pourquoi aujourd'hui on se lève tous les matins, c'est de devenir la première bourse internationale des talents, au même titre que le Nasdaq pour les entreprises. Vraiment, c'est la mission, c'est l'ambition de devenir ça, qui est plus forte que jamais aujourd'hui. Et évidemment que si on arrive à réaliser cette mission, on fera partie des plus belles boîtes françaises sur la planète. Et c'est vraiment ce qu'on cherche, on y croit. Tous les indicateurs nous montrent que c'est possible, malgré l'environnement économique en ce moment qui est difficile. On résiste bien, on continue d'avancer, et on espère que cette année on pourra se lancer dans d'autres territoires. Vraiment, l'objectif, c'est là maintenant, c'est de s'internationaliser, comme on disait, et donc d'aller aux USA, mais pas que, dans d'autres pays européens. Ça peut être aussi le Middle East, qui est très friand de sport en ce moment, avec l'Arabie Saoudite. Ça, c'est des territoires qu'on regarde avec intérêt pour vraiment pouvoir se développer cette année.
Et les US, ça devrait ouvrir quand, tu sais?
Alors, on ne sait pas, parce qu'on attend la green light de la SEC, donc d'être régulé sur place, parce que le ROI là-bas est considéré de facto comme un produit financier. Et du coup, on attend en fait, on attend ce fameux sésame pour pouvoir commencer à se lancer là-bas. Donc, cette année, mais on ne sait pas exactement quand. On est prêt.
D'accord. Et ta vie à toi, ça ressemble à quoi? Tu charbonnes du matin au soir comme un dingue, ou tu as réussi à structurer des équipes, parce que ça a dû être... Rock'n'roll les premiers temps, là, le bateau, il est dans quel type de mer actuellement?
Bah, le bateau, quand t'es entrepreneur, en fait, la réalité, c'est qu'il est toujours dans une mer agitée, en fait.
Okay.
Et peu importe ton stade de développement, en fait, tu dis toujours, au début, tu dis, ouais, vivement qu'en fait, je recrute beaucoup de monde, ça ira mieux, mais non, parce qu'en fait, quand tu recrutes beaucoup de monde, c'est un changement de méthode de management, c'est un changement structurel, ça t'amène d'autres problèmes. Pareil, au début, quand tu as peu d'utilisateurs, tu dis vivement que j'ai beaucoup d'utilisateurs, ça ira beaucoup mieux. Bah non, parce que plus tu as d'utilisateurs, plus tu as de problèmes. Donc en fait, chaque niveau apporte son lot de soucis. Et surtout, nous, en fait, c'est vrai qu'on a un produit qui est complexe, parce qu'on est au croisé de beaucoup de choses. Il y a beaucoup une dimension légale très forte. Il y a les talents d'un côté, des utilisateurs consommateurs de l'autre. Au milieu de tout ça, tu as une plateforme avec de l'argent. Donc en fait, ce cocktail-là, comme je te disais tout à l'heure, fait que c'est un cocktail qui est extrêmement complexe à manœuvrer, avec un marché en plus qui est en mouvement. Et donc oui, c'est très sport. C'est la boîte la plus complexe qu'on ait fait avec mon associé Christophe et moi. On a jamais fait aussi complexe. Il y a pas un jour sans qu'il y ait pas de problème à gérer, mais c'est normal, c'est pour ça qu'on fait ce métier, sinon clairement on le ferait pas. Donc même quand tu arrives au stade où on est justement, c'est là où faut mettre encore des coups de collier, faut absolument pas s'arrêter, parce que si tu te crois déjà arrivé parce que tu as fait 8 10 millions de chiffre d'affaires, peu importe, en fait c'est là où ça va pas, parce que les choses, elles sont rien n'est acquis, faut toujours continuer, en fait, avancer.
Vous avez monté combien de boîtes avec Christophe?
Alors moi, dans ma vie, 4, Christophe, il en a montré à peu près pareil, je crois même plus, à mon avis. Christophe, il doit être quasiment à sa sixième. Il est plus âgé que moi, il est vers la cinquantaine, donc il a monté un peu plus.
Et tu gagnais ta vie avant Royalties, ou c'est le premier projet pro?
Non, mais comment
ça explose, quoi?
Ouais. Non, parce que en fait, avant Royalties, j'étais dans des boîtes, j'étais quand même dans des startups qui fonctionnaient bien. D'une part, en tant que salarié, je gagnais plutôt bien ma vie. Et avant, même sur les autres projets, même quand j'étais dans les médias, en plus, on dépendait du groupe M6 après. Donc voilà, c'était plutôt non. De ce point de vue-là, j'ai toujours plutôt bien gagné ma vie. En tout cas, j'ai toujours plutôt réussi à bien gagner ma vie.
T'es originaire d'où?
Alors, je suis originaire de Savoie,
D'accord.
Chambéry.
Ok. T'es un skieur dans l'âme?
Pas du tout.
Ok. Autre question? Non.
Originaire de Chambéry. Non, ouais, non, mais c'est non, non, c'est sûr, pas du tout. En fait, non, c'est assez effectivement cocasse, mais c'est que je ne skie pas. Alors, quand j'y vais, quand j'ai l'occasion d'y aller, je m'arrête à l'étape 20 chaud. Pas
Ok.
plus haut.
Ce qui est déjà bien. Pourquoi est-ce qu'on fait l'interview ensemble et pas avec Christophe, du coup?
Ah bah parce que Christophe est occupé, il est en vacances.
Ok.
Non, parce qu'en fait, on se dissocie un peu si tu veux, on se dissocie les rôles sur les interviews plus sérieusement. Et Christophe, il est beaucoup sur les interviews beaucoup plus corporate, on va dire. Et moi, je prends les podcasts qui vont être un peu plus spécialisés, comme là sur le tennis, quand il y a vraiment une thématique sportive et talent.
Tu dirais que tu es intervenu dans combien de podcasts ou interviews comme ça, parce que tu as dû en écumer un paquet.
Moi, non, pas trop, parce que c'est Christophe quand même en général qui en fait quand même beaucoup, parce que la plupart des interviews sont quand même assez généralistes, assez corporate, les plateaux télé, du BFM, etc. Christophe, il est rompu à cet exercice-là, mais
Ouais.
des interviews thématiques, finalement, on n'en fait pas des milliers. Et puis après, il y a aussi la partie print, hein, tu vois, qui souvent on intervient, mais on essaie aussi, tu vois, d'être concentré au day to day finalement. Sur ce qu'on fait, sur
Ah
notre
ouais.
business. Donc, on n'est pas à la recherche, on va dire, entre guillemets, de la lumière en permanence, parce que finalement, sinon tu bosses
Tu
plus, en fait.
t'éparpilles. Ouais. Pourquoi avoir
On
accepté du
fait
coup le
très peu.
tennis légende? C'est que t'es un
Bah,
utilisateur,
parce que,
t'es dans la
bah,
communauté ou
non,
pas?
parce
Tu
que,
peux nous le
ouais,
dire?
non, mais déjà, on avait parlé, moi, je suis ce que tu fais, j'aime bien tout ce qui est envers du décor et ta ligne édito et tout, ça, c'est hyper, hyper intéressant de voir, hein, l'envers du décor dans le tennis. Et parce que moi, c'est un milieu aussi, le tennis, enfin, personnellement, que j'aime beaucoup, voilà, que j'ai appris justement à connaître. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant pour moi même d'échanger avec toi pour voir quelles sont tes questions en fait que tu me poses, parce que ça me permet de voir quelle est ta perspective à toi sur Royalties. Et de là, en fait, ça me permet d'avoir une analyse en me disant, voilà, une personne comme Max, elle a ces questions-là parce que du coup, elle a la perspective de Royalties dans ce sens-là, tu vois. Moi, c'est hyper intéressant en fait quand même d'échanger avec des gens qui arrivent et qui sont un peu neutres sur la plateforme, tu vois, parce que tu as des questions, tu vois, qui vont permettre de susciter chez moi une interrogation qui va me dire, ah, s'il me pose ça, c'est que peut-être il pense ça, et du coup bah, tu as
Bien
un
vu.
cheminement après dans intellectuel qui fait que en fait j'aime bien ce genre d'échange.
Aujourd'hui, Royalty, c'est valorisé à combien du coup?
C'est valorisé à plus de 150 millions d'euros.
Eh, pas mal. On est à un peu plus de 10% de ton rêve de licorne. Si tu devais citer les valeurs de l'entreprise, ta vision à toi, tes envies, tes rêves, nous faire une synthèse de tout ça, ce serait quoi?
Oh, c'est la question la plus difficile du podcast. Mes ambitions, là, c'est vraiment de faire déjà de royalties, d'aller le plus loin possible, parce qu'en fait c'est un produit, un projet dont la mission, en fait, elle est tellement importante pour nous et pour moi, c'est que on a vraiment envie de le pousser au maximum, parce que c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais la mission, en fait, sous-jacente qu'on avait aussi depuis le début avec Christophe et qu'on n'a pas pu encore exécuter, c'est de se dire, ce mécanisme-là, en fait, il peut vraiment permettre d'aider des gens qui en ont réellement besoin.
Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est focus sur les stars. Donc, c'est pas
Oui,
encore
un talent comme Daniil, tout à fait, un talent comme Daniil Medvedev, en l'état, on connaît ce qu'il gagne. S'il n'a pas royalty, ça change pas du tout sa vie. Par contre, demain, un très jeune joueur de tennis qui n'arrive pas à se financer parce que il vient pas du bon territoire ou qu'il n'a pas le bon réseau, et ben c'est ça en fait qu'on aimerait vraiment pouvoir mettre en place et se servir de tout ce mécanisme, cette puissance financière au travers de royalties pour financer ce qu'on appelle nous les infinançables, toujours au travers de nos thématiques et toujours avec ce concept. Hein, ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, c'est pas de la charité, attention. C'est vraiment que tout le monde soit gagnant et que des personnes investissent vraiment sur l'avenir d'un très jeune talent. Et ça va commencer dans pas longtemps. Normalement, on va avoir vraiment d'ici au printemps ces jeunes talents qui sont quasi inconnus et qu'on va introduire sur la plateforme. Et là, pour le coup, on aura vraiment ce côté ultra vertueux qu'on cherche aussi avec Christophe, de permettre, faire en sorte que cette solution, elle aide des personnes qui en ont besoin, vraiment.
Et c'est hyper louable, mais à part le réseau de l'inconnu, qui va se dire, ouais, je vais sur Tartempion mettre 100 balles
Enfin, tu vois. Alors c'est une bonne question, parce que c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait au début. Si on avait fait ça au début, c'est-à-dire mettre des inconnus avant les stars, ça aurait jamais marché. Et d'ailleurs, ouais, je suis quand même pas là pour en parler parce que ça aurait pas fonctionné. Realties. Maintenant qu'on a mis des stars, qu'on a une communauté, qu'on a 200 000 utilisateurs, des gens qui comprennent la plateforme, qui nous font confiance aussi, nos clients, ils savent que si on met un talent sur la plateforme, c'est qu'il y a aussi eu de la recherche. On va pas mettre Toto parce qu'on l'a vu au coin de la rue, tu vois. Il y a quand même une histoire et toute la communauté Realties, on est persuadé, ira sur ce type de profil. Parce que c'est aussi l'ADN un peu de la plateforme, c'est de dénicher un peu la nouvelle star et de suivre son parcours. Les gens, ils investissent, tu sais, dans les boîtes en général, dans les startups, ils investissent aussi pour l'histoire, tu vois, pour ce qu'on appelle nous, toute l'histoire, voilà, qui va en découler, de faire partie vraiment intégrante d'une histoire. Et ça va être pareil en fait avec ces très jeunes talents qui sont inconnus. Et ça, vraiment, c'est un truc qui me tient, moi, personnellement, à cœur. Donc, déjà, une fois qu'on aura réussi ça, je pense qu'on aura été un peu au bout de la première partie de la mission. Et après aussi, c'est de mener vraiment au maximum ce bateau qui est Realties avec toute l'équipe. Parce qu'on a une équipe qui est vraiment géniale derrière. On n'est pas très nombreux. Et je pense que tout le monde a vraiment envie d'aller là au bout avec Realties.
Aller au bout, ça veut dire quoi?
Aller au bout, ça veut dire quoi? C'est une très bonne question. Aller au bout, en fait, si on prend pour une startup, aller au bout, c'est aller à l'IPO, c'est-à-dire aller jusqu'à l'introduction en fait en bourse de ta société.
Ok.
Et aujourd'hui, sur une société comme Realties, avec les ambitions qu'on a, avec le modèle de Realties et le nombre de verticales, de talents et de territoires qu'on peut adresser, on peut escompter arriver jusqu'à. C'est certes une ambition qui est importante, mais il faut l'avoir.
Ouais, ça voudrait dire qu'à 40 piges, dans 4 ans, quand vous êtes aux portes de l'introduction en bourse, tu fais tes valises et tu pars aux Bahamas.
Ouais. Je ne pense pas partir aux Bahamas parce que malheureusement, je dis ça, c'est que je suis quelqu'un qui s'ennuie extrêmement vite. Et si je reste un jour sans connexion Internet, sans réfléchir, sans phosphorer, en fait, je commence à devenir fou. Et j'espère avoir la capacité prochainement de pouvoir me reposer enfin. Mais clairement, je pense que tu sais, quand tu es entrepreneur et que tu sais dans tes veines, c'est très très dur de décrocher. Et tu peux effectivement prendre un peu des vacances, mais après te dire que t'arrêtes complètement, même si ça t'a saoulé parce que t'en as plein le dos, je pense qu'après en fait t'y reviens toujours. En fait.
Tu sens quand même c'est que t'accumules de la fatigue et tout, que c'est
bah, c'est quoi. Hyper dur.
Ouais.
Bah, c'est le mode, comme je dis souvent à mes amis ou à mon entourage, c'est le mode hardcore.
Vraiment, à ce point-là.
Ce qu'on nous raconte, ce qu'on raconte parfois dans les médias ou ce qu'on peut lire, c'est extraordinaire, la liberté financière ou je ne sais quoi de l'entrepreneur, ça c'est des conneries pour moi. C'est pas du tout représentatif de ce qu'on vit quand on est entrepreneur et encore plus dans l'écosystème startup où tu fais face à des défis permanents. Et nous, en plus, sur Realties, on invente tout parce qu'on crée une nouvelle classe de plateforme. En fait, on copie pas ce qui a déjà été fait, en fait. On invente systématiquement. Donc, ça demande tout le temps, cérébralement, de se réinventer. Donc, c'est hyper, hyper dur. Enfin, c'est hyper énergivore.
Vous avez combien de concurrents aujourd'hui?
Ben, on n'en a pas vraiment, en fait. C'est ça le point, c'est qu'on a des gens qui sont dans l'écosystème. Ouais. Ouais. Typiquement, on pourrait dire que l'écosystème sur rare, c'est dans l'écosystème. Socios, on pourrait dire que c'est dans l'écosystème aussi. Mais Fantum aussi, ouais, tout à fait, dans l'écosystème, mais vraiment qui fait comme nous, c'est-à-dire une bourse pour investir sur des talents et avoir un rendement, il n'y a personne qui fait ça.
Ok.
Parce que on a mis des grosses barrières à l'entrée aussi, en signant les talents en exclus. et parce que c'est la réalité, c'est que pour y arriver, c'est complexe. Voilà.
Ouais. Et du coup, c'est quoi, toi, c'est un pari parce que t'es un athlète à ta manière, du coup, vu comme tu t'investis.
Et c'est un gros pas. Ouais, un gros parallèle hein, avec les athlètes souvent et le métier d'entrepreneur d'après moi, c'est pareil. Tu vois, quand t'as par exemple un joueur de tennis qui se prend 2 sets et qui est en difficulté totale, parce que dans les boîtes parfois t'es en défense, t'es en difficulté, c'est connu. Hein. Et ben là, il faut savoir avoir le mental pour revenir, tu vois, dans le match et gagner le match. Tu vois, et c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, je trouve, il y a beaucoup de comparatifs avec un sportif, c'est le mental en fait. C'est quand tu domines et que tu marques des buts, tout va bien. Mais c'est quand tu marques pas de buts et que tu domines pas et que t'es en défense que là, c'est seuls les meilleurs arrivent à revenir en attaque. C'est pareil pour les entrepreneurs.
Ouais. Puis vous, c'est vraiment lever des verrous non-stop, quoi. Le verrou agent, le verrou conseiller, le verrou athlète, le verrou US, tous les
le verrou régulation, le verrou user, le verrou. Ouais, c'est exactement ça. C'est
ATP, Equity, Grand Chelem. Il y a des commissions dans tous les sens. Il faut en vouloir. Hein.
Et en fait, y croire. C'est des portes, en fait. Et chaque fois que tu avances devant une porte, tu as une autre porte avec un autre verrou.
Ouais.
Et quand tu crois que c'était un gros verrou, non, la porte d'après, il y a un verrou encore plus important.
Et tu dirais que s'être entouré quasiment des meilleurs avocats de la place a fait 80% du job, ou derrière, vous devez fournir une énergie de dingue en complément?
Ouais, non, pas 80%. Ça a fourni, en fait, au début, le fait d'avoir la crédibilité et surtout d'avoir un produit qui est solide. Mais en réalité, c'est pas ça qui fait qu'en fait la boîte elle marche au quotidien. Maintenant, on n'est plus là-dedans. Là, c'est l'énergie à déployer constamment tous les jours. Il y a pas le choix.
Est-ce qu'il y a une info sur royalties, sur ta vision, sur les valeurs, sur la meilleure anecdote de l'histoire de votre business qui n'a pas été racontée avant que l'on termine, Kevin?
Je pense qu'on a raconté beaucoup beaucoup de choses. C'était une discussion hyper hyper intéressante et là comme ça qui me vient en tête que je peux raconter parce qu'il y a des choses que je ne peux pas raconter voilà. Donc, il faudra que les auditeurs ou tes viewers viennent me voir me croiser en vrai, peut-être qu'en off je leur raconterai un peu
plus
d'informations.
Sympa. Voilà. Juste pour mieux te connaître, pour terminer l'interview, j'ai 2-3 questions de fin. Le livre que tu recommandes, que tu serais prêt à offrir à toute personne que tu as envie d'aider, ça serait lequel?
C'est, je le dis souvent, c'est Why, qui est un livre, en fait, vraiment sur à la fois l'entrepreneuriat, sur soi-même, c'est comprendre le pourquoi. Et ça paraît bête, en fait, mais la plupart des cerveaux humains n'arrivent pas, en fait, à comprendre le pourquoi, ce qu'ils font les choses. Et ça, c'est vraiment un livre qui est hyper intéressant et facile à lire, voilà, captivant.
De Simon Sinek ou c'est quelqu'un d'autre?
Ouais, c'est ça.
Ouais. Bon, j'ai envie de te poser ton why, mais bon, on est reparti pour 2 heures. J'ai un peu peur.
Ouais, sinon, ça va durer, là.
Le concert le plus ouf auquel t'es assisté dans ta vie?
Alors, le concert le plus ouf, c'est quand je travaillais dans les jeux vidéo. À l'époque, on était invité par Activision pour le lancement de Call of Duty. Il y avait tellement d'argent et de budget qu'on avait été invité à un concert privé de Rihanna, Eminem, Jay-Z et compagnie. Voilà. Concert privé de tous ces gens-là pour le lancement à Los Angeles.
Et t'avais 15 piges.
Hein. Là j'avais 21.
Waouh. Et du coup tu pesais assez pour que les mecs te payent tout ça, quoi. Incroyable.
Ouais, parce qu'on pesait, en fait, on avait un média qui s'appelait jeuxvideo.fr et aussi on avait une émission en partenariat avec M6 sur W9. Donc en fait, en termes d'audience, on pesait beaucoup plus que n'importe quel média jeux vidéo. Donc on était invité de partout dans le monde, et dans le jeu vidéo à l'époque, il y avait des budgets qui étaient faramineux, et du coup ça a permis de voyager all around the world.
Énorme. Tu l'as encore, ce site internet?
Non, il n'existe plus malheureusement, comme beaucoup de sites internet de jeux vidéo. Là, tu sais, le modèle de la presse, tu connais un peu, a quand même bien évolué, et les sites de jeux vidéo sont quand même beaucoup malheureusement disparu parce que les annonceurs sont allés énormément vers les influenceurs, vers YouTube, vers le canal de direct aussi. Maintenant, les marques parlent en direct avec les consommateurs, donc on n'a plus besoin des médias, tout simplement. Okay.
top 3 des voyages les plus what the fuck avec les jeux vidéo, tu dirais?
J'en ai fait, alors là, c'était... parfois, je partais 4 fois par mois, donc c'était vraiment du délire. Je me demande comment je faisais pour pas être fatigué. J'ai fait des trucs de fou. J'ai fait pour le lancement d'Uncharted, on a été dans le désert de Jordanie, dans les ruines de Petra. J'ai fait un tour du monde avec PlayStation pour le lancement de la PS Vita à l'époque, c'était la console portable. J'ai fait plein de fois Tokyo. On a fait vraiment des voyages extraordinaires dans le jeu vidéo. À la découverte aussi des développeurs, parce qu'en fait tu découvres, tu vas souvent dans les studios de jeux vidéo également, et c'était vraiment tout le temps des rencontres extraordinaires. Je considère encore que l'industrie du jeu vidéo est pionnière dans beaucoup de choses, avec les gens les plus intelligents que j'ai jamais rencontrés sur le monde de jeux vidéo. Voilà.
C'est génial. Pourquoi avoir arrêté, du coup, ça devait être un milieu passion, quoi.
Ouais, c'était un milieu passion qu'il est encore aujourd'hui, pour deux raisons. C'est que déjà, je voulais entreprendre, et que entreprendre dans le jeu vidéo, c'est encore plus... c'est autre chose encore.
D'accord.
Créer un jeu, c'est encore autre chose. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas le même track. Mais peut-être que j'y reviendrai. C'est fort possible.
Je viens de regarder la série sur Squeezie, enfin le documentaire, où il a monté son équipe de e-sport. Voilà. Et c'est un truc qui te dirait, toi ?
Non, pas le e-sport. Mais par exemple, média jeux vidéo, réinventer un média jeux vidéo, pourquoi pas ?
Une citation que t'aimes bien.
C'est la citation que j'ai un tatouage dans le cou que j'ai fait quand j'avais 18 ans à Los Angeles. Justement, c'est ma première fois. Je suis allé à Los Angeles à 18 ans avec le jeu vidéo. C'était avec un éditeur qui s'appelait THQ, qui faisait des jeux de catch et du UFC. Et en fait, j'ai été faire un tatouage parce que j'avais 18 ans, qu'il fallait faire un tatouage sur la plage à Venice Beach. Et du coup, c'est rêve. C'est vraiment, ça fait un truc très, très beau. Enfin, attention. Mais c'est rêve ta vie, vis tes rêves. Voilà. Mais je le dis souvent parce qu'au final, c'est pour l'histoire.
Ah, mais t'as toi, t'as une vie, t'as déjà vécu 14 vies, quoi, c'est incroyable. Avec toutes tes rencontres et tes projets, la personne la plus connue dans ton répertoire, c'est qui ?
Là, j'ai beaucoup de talent maintenant dans mon répertoire.
Ouais.
Je crois même que je dois avoir le numéro de Vinicius, par exemple.
Ok, je connais pas.
Joueur de hockey, tu connais pas ? Non, ouais, là j'en ai pas mal parce que j'ai, avec Royalties, en fait, finalement, on en a beaucoup. Répertoire.
Énorme. Une personne avec qui tu rêverais de passer un dîner, quelqu'un qui t'inspire ?
Je ne vais pas être original, mais vraiment, j'aimerais bien passer du temps avec Mark Zuckerberg, par exemple. C'est quelqu'un qui m'intrigue beaucoup.
Mm.
De par tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a créé, sa personnalité. Voilà. Savoir si c'est vraiment un alien. Tu sais, il y a beaucoup de théories qui disaient qu'en fait, il était envoyé par les aliens ou je ne sais qui. Mais...
Ton goat à toi dans le tennis, c'est qui ? Goat du cœur, hein, pas goat des stats.
Bah, j'adore Kyrgios, moi. Ouais, je suis grand fan du personnage.
Et juste à titre d'info, Roger, Rafa, Djoko, Alcaraz, trop cher ou ça dit quoi ?
Bah, les trois que tu as cités, les premiers, c'est que je pense que ça correspond pas forcément parce que déjà ils sont plus vers la fin. Mais ça pourrait parce que. Peut-être ils vont faire autre chose après. Tu vois, Rafa, il a déjà son académie de tennis. Donc pourquoi pas, on ne ferme pas la porte. Maintenant, c'est des deals qui seraient très très chers. Objectivement, ça serait très très cher. Je ne suis même pas certain qu'ils accepteraient, pour tout dire. Hein, Djokovic, j'ai entendu pas mal d'anecdotes sur ces deals. Enfin, je pense qu'il est très très regardant, tu vois, sur ce qu'il fait. Il est pro, tu sais, il adore. Enfin, dans tous ces deals, je crois que il y a une clause que ça doit relater par rapport au sport, par rapport au fait de. Les gens doivent bouger, donc tu vois, si c'est un deal ou avec une solution ou même qui en fait prône pas le sport ou enfin des principes que lui il a, je crois que il fait même pas les deals. Et après Alcaraz, oui, ce serait une possibilité. Il est chez IMG. Après, c'est des talents effectivement qui sont quand même là vraiment dans une sphère très particulière. Donc pourquoi pas à l'avenir Alcaraz.
Ok. Un voyage que tu rêves de faire parmi tous ceux que tu as déjà fait?
Je vais peut-être passer pour le prétentieux de service, c'est pas grave, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de énormément voyager un peu aux quatre coins du globe. Mais il y a une destination que j'ai pas encore faite, que j'aimerais bien découvrir, et c'est l'Égypte. Tu vois, c'est pas très original, mais je suis allé récemment à une exposition sur l'Égypte à Paris, et du coup j'ai envie d'en savoir plus. Voilà.
Est-ce que t'as déjà fait des trucs what the fuck, mais qui n'ont rien à voir, type retraite de silence, de méditation, ayahuasca, vipassana, pour couper un peu des écrans et de cette vie de dingue où t'es sollicité non-stop, quoi.
Bah alors, c'est une bonne question. Ma compagne a fait de l'ayahuasca il y a pas très longtemps,
ouais.
Au Pérou, et du coup, elle m'a raconté, elle m'a encouragé à le faire, et normalement, effectivement, je devrais tester cette expérience d'ayahuasca dans pas très longtemps.
Énorme.
Voilà.
On fait un épisode pour débriefer.
Ouais, ça va être intéressant.
Merci Kevin, c'était hyper cool. C'était très très cool.
Merci.
Donc, bon, on vous retrouve évidemment sur le site internet, Insta. Est-ce qu'il y a un endroit pour découvrir particulièrement ce que vous faites, que tu recommandes?
Bon, oui. Royalties.com, hein, tout simplement, tout est dessus.
Impeccable. Allez, mettez-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, évidemment, un petit like à la vidéo, et puis à très vite. Merci Kevin.
Merci à vous.
Ciao, ciao. Salut.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode avec Kevin, cofondateur de Royalties. Mettez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé du contenu et un like. Ça nous aide comme jamais. Un autre truc hyper important, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube, Spotify ou autre, peu importe où vous écoutez. C'est un tout petit clic de votre côté. Mais ça nous aide aussi pour vivre de notre contenu par la suite. Alors par avance, un énorme merci. Et pour continuer à vous régaler chaque semaine avec des pépites du circuit, on a besoin de votre soutien. Et là, vous pouvez nous aider également en rejoignant la communauté Tennis Légende pour 5 euros par mois. Environ soit le prix d'une boîte de balles plus ou moins. On te donne accès à des interviews exclusives que l'on ne publie pas, des débriefs de matchs, de joueurs pro, des compléments d'interviews, des échanges avec des coachs. Tout ça est privé et uniquement accessible en rejoignant la communauté Tennis Légende et donc en soutenant au passage le podcast. Nous, ça nous permet de continuer à t'offrir du contenu de qualité. Et toi, ça te permet de progresser avec des conseils d'experts. Alors fonce, le lien est dans la description de l'épisode. Et donc par avance, un immense merci. Pensez au bouche à oreille des légendes, envoyez l'épisode à des potes qui seront ravis de découvrir notre contenu. Et si vous avez des idées, envoyez-moi un mail à max@tennislegende.fr ou alors sur LinkedIn ou à Insta à Max Zamora, Zamora. Je réponds à tout le monde. J'espère sincèrement que l'épisode de la semaine vous a régalé et je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir sur et en dehors du cours. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.